Europe Matin.
6h58, bonne matinée sur Europe 1.
On vous retrouve demain 5h. Bonjour, Dimitri Pavlenko. Bonjour Alexandre, bonjour Obline.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien. Bon, on a un petit peu de retard, donc c'est pour ça qu'on abrège.
J'espère que nos auditeurs aussi vont bien. Bah oui, c'est la rentrée scolaire pour un peu plus de 12,5 millions d'élèves et d'apprentis, pour 1,2 million personnels. Et puis pour tous les parents qui vont accompagner leurs enfants aussi aujourd'hui, bon courage à toutes et tous. Donc en cette rentrée, nous serons en ligne dans un quart d'heure avec Bruno Bobkiewicz. C'est le président du SNPDEN UNSA, c'est le principal syndicat des personnels de direction. Quels sont les grands axes de cette rentrée ? Il y a tout ce bruit autour des contractuels. On en parlera avec lui tout à l'heure. Ne manquez pas d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk à 8h13. Alors il s'appelle Laurent Valogne, nom d'emprunt. Il est professeur de français. Il signe chez Plon un livre coup de poing en cette rentrée, « Ces petits renoncements qui tuent ». C'est le récit au quotidien de la rupture de toute une partie de la jeunesse attirée par l'islamisme, par le multiculturalisme, avec notre modèle laïque et républicain. Ce sera donc à 8h13. C'est la rentrée politique et gouvernementale également, avec une séance de team building hier pour resserrer les liens et les boulons. Qu'est-ce qui s'y est dit ? On va voir ça. Est-ce qu'il y a été question de cette affaire EQSEN qui continue de beaucoup faire parler ? Gros ratage pour les forces de l'ordre qui ont manqué. L'imam qui est normalement expulsé, apparemment il s'est expulsé lui-même vers la Belgique. Voilà, maître de son destin cet imam EQSEN. C'est une épine dans le pied de Gérald Darmanin. Ce sera le thème de l'édito politique d'Alexis Brézet tout à l'heure à 8h. Moins 10, voilà pour les grandes lignes du programme. Je déroulerai la suite au fur et à mesure. À demain.
À demain.
Alexandre.
À demain.
Coup d'œil sur la météo. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Et bien voilà, le soleil domine pour ce premier jour d'école, tant
oui,
mieux.
Oui, c'est un jeudi assez estival, hein, ça faut bien le reconnaître.
Sur la rentrée sous la pluie, alors, rien de pire. Hein.
Ah mais attention, il y a quelques régions qui seront sous la pluie. Mais rentrée pluvieuse, rentrée heureuse, c'est disait à 6h avec Alexandre et Omblin. Alors pour ceux qui sont sous la pluie, ça concerne la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, donc le nord-ouest du pays. Il y aura un petit peu de pluie aussi entre les Alpes du Sud et la Corse. Et oui, les élèves corses du côté de Bastia vont effectuer une rentrée sous la pluie, mais il va faire lourd aujourd'hui. Il fait déjà doux, 10 à 22 degrés. On a 23 à Quimper cet après-midi, 25 à Rennes et Belfort, 27 à Lille, 29 à Paris-Bordeaux, 33 à Cahors, 34 à Nîmes. Je vous avais promis à 6h de vous dire le temps qu'il faisait en 2012, le 1er septembre 2012, on avait des gelées blanches en région parisienne. Oui. Et nous avons vécu l'après-midi la plus froide de l'histoire, puisque nous avions 13 degrés à Grenoble.
Décidément, il y a 10 ans seulement.
Il y a 10 ans.
Merci beaucoup Anissa, on vous retrouve dans une demi-heure. Excellente journée, bienvenue sur Europe 1. Jeudi 1er septembre, donc c'est la rentrée, bon courage. Il est 7h.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Et ce n'est donc pas le Covid, mais le manque de profs qui va menacer la rentrée scolaire cette année. Mais pour ceux qui seront bien en classe, dès aujourd'hui, c'est toujours le même mélange. Appréhension plus excitation. La police française, elle, est toujours à la recherche de l'imam EQSEN. Il pourrait s'être enfui en Belgique. Gérald Darmanin assure qu'il ne remettra pas un pied en France. Et puis, de nouveaux documents judiciaires accablants contre Donald Trump. Le camp de l'ancien président des États-Unis aurait caché des éléments confidentiels recherchés par les policiers américains. Le journal Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une douche, on s'habille, on se brosse les dents et on enfile le cartable. C'est le retour de la routine de l'école pour 12 millions d'élèves, mais aussi donc pour les professeurs. À 38 ans, Marion Frein s'apprête à faire sa 14e rentrée des classes. Elle accueille ce matin 27 élèves en moyenne et en grande section. Elle est à l'école depuis vendredi. Pour tout installer, Louise Salé l'a rencontrée avant l'arrivée des enfants.
Alors voilà, c'est l'entrée de mon école maternelle.
C'est calme là aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est calme aujourd'hui, ça va pas durer longtemps. Et ma classe.
Et comment ça s'est passé la préparation de cette rentrée ?
Je suis venue évidemment avant la rentrée. J'ai fait monter ma maman du sud pour qu'elle vienne garder mes propres enfants puisque je peux pas les garder aussi pendant ces jours-là. Mais je me retrouve cette année par exemple dans une classe sans ATSEM. Donc les ATSEM, c'est les personnes qui sont là en parallèle des enseignants pour toute la partie préparation. La pénurie qu'on retrouve chez les enseignants se retrouve aussi dans tous les corps de métier inhérents à l'éducation. Ça, c'est un peu angoissant. Bon, ben là, je me suis tapé le travail toute seule, quoi. Voilà.
Est-ce que vous pouvez juste me montrer un petit peu ce que vous avez installé, préparé ?
Toutes les étiquettes que vous pouvez voir sur les porte-manteaux pour que les enfants, quand ils arrivent en classe, ils se sentent déjà accueillis. Tout passe exclusivement par l'aspect ludique en maternelle. Hein. Par exemple, des abacs, ce qu'on appelle des abacs, donc des sortes de petites perles comme ça qu'il faut enfiler avec pour objectif de créer des rythmes de couleurs, de formes.
Vous vous sentez préparé pour cette rentrée ?
C'est toujours un saut dans le vide, une rentrée. Je crois que même après 30 ans ou 40 ans de carrière, il y a toujours un petit truc dans le ventre, comme quand on monte sur scène.
Le reportage de Louise Salé, de l'appréhension donc, mais aussi de l'impatience et de l'excitation chez les enfants, comme pour Johan qui entre en CM2.
J'aime bien rentrer à l'école parce que sinon les vacances elles sont trop longues. J'aime bien qu'on peut voir les amis et qu'on peut étudier et travailler pour apprendre des choses. Dans notre école, on ne sait pas dans quelle classe on va être. C'est pas stressant, mais t'as envie de savoir parce que t'as des amis de l'année dernière et tu veux voir si t'es avec eux ou pas.
Johan interrogé par Marine Sabourin sur TikTok. Emmanuel Macron souhaite une bonne rentrée à tous. Elle ne doit pas être synonyme de calvaire, selon le président, qui s'est exprimé sur le harcèlement scolaire dans une vidéo diffusée sur le réseau social. Il rappelle qu'un numéro de téléphone existe pour dénoncer ces faits de harcèlement, le 30-20, mais aussi le 30-18 via l'association e-enfance.
Ce 1er septembre, c'est aussi la date d'entrée en vigueur de nouvelles mesures.
La remise sur les prix des carburants qui passe de 18 à 30 centimes, mais aussi l'élargissement de la gamme de denrées qui peuvent être payées par ticket restaurant. Ça concerne notamment les pâtes, les œufs, la viande, le poisson et puis le stationnement pour les deux roues thermiques qui est désormais payant à Paris.
Alors dans quel pays se trouve-t-il? Où ira-t-il? L'imam Hassan Iqiyoussen, toujours introuvable.
Hein. Mardi, le Conseil d'État a validé son expulsion de la France vers le Maroc, mais les perquisitions menées chez lui près de Valenciennes n'ont rien donné. Hier, le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, a apporté des précisions sur le prédicateur. Et Lionel Gougelot, la thèse de la fuite en Belgique sans se confirmer.
Domicilié à quelques encablures de la frontière belge, Hassan Iqiyoussen a très bien pu passer en Belgique discrètement ces derniers jours, hypothèse confirmée par le préfet du Nord.
Le scénario qui est évidemment privilégié est une fuite en Belgique de M. Iqiyoussen. Mais il appartient au magistrat qui dirige cette enquête de le déterminer.
Mais rien ne filtre sur les éléments qui permettent d'étayer cette thèse. Si c'est le cas, les autorités comptent sur la coopération judiciaire internationale pour mettre la main sur l'imam en fuite.
Ou bien il est dans un pays étranger, auquel cas la coopération judiciaire internationale se fera. Ou bien s'il est sur le territoire français et s'il est interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative.
Reste à savoir pourquoi le prédicateur a pu glisser entre les mains des autorités. Réponse du préfet, avant la confirmation de son expulsion, il n'y avait pas les moyens juridiques de mettre en place une surveillance policière rapprochée.
Il y avait plusieurs endroits où il était susceptible d'être. En même temps, nous intervenions dans un cadre administratif dans lequel il est impossible, en dehors de cas de flagrance, d'exercer une surveillance permanente. Ce que je sais, c'est que dès lors qu'il s'est soustrait à un arrêté ministériel d'expulsion, M. Iqiyoussen est devenu un délinquant.
Et de fait, pour s'être soustrait à une décision d'éloignement, Hassan Iqiyoussen encourt 3 ans de prison. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et hier soir, le ministre de l'Intérieur a confirmé sur France 5 que la fuite en Belgique était le scénario privilégié. Gérald Darmanin qui assure que Hassan Iqiyoussen ne pourra pas revenir en France. Dans le même temps, le Maroc a suspendu hier soir le laissez-passer consulaire qui permettait justement l'expulsion de l'imam. En bref, le policier est placé en garde à vue après la mort par balle d'un jeune homme mardi, c'était dans le Nord, lors d'un refus d'obtempérer, a été mis en examen.
Europe 1, il est 7h06, direction les États-Unis. Nouveau document accablant à l'encontre de Donald Trump.
Le ministère de la Justice a publié hier un document judiciaire pour justifier sa perquisition du mois d'août à la résidence de l'ancien président en Floride. Le FBI y a récupéré des dossiers confidentiels que Donald Trump n'a pas rendus en quittant la Maison Blanche. Et Alexis Guilleux, les autorités accusent désormais le camp de l'ancien président d'avoir caché les documents en question.
Oui, selon le ministère de la Justice, Donald Trump ou ses proches ont probablement déplacé ou caché une série de fichiers pour faire obstruction à l'enquête en cours. Ces documents hautement confidentiels, on peut les apercevoir sur une photo diffusée avec l'acte de procédure. Plusieurs d'entre eux comportent la mention « top secret ». Certains contiendraient des informations obtenues par des espions ou des sources à l'étranger, des fichiers qui ne sont pas censés sortir de la Maison Blanche. De nombreuses voix s'élèvent pour demander l'inculpation de l'ancien président, mais ses partisans crient encore au complot, comme Christine Hum, la gouverneure du Dakota du Sud, interrogée sur Fox News.
Savons-nous vraiment ce que le président Trump apporte chez lui? Savons-nous ce qu'il y a à l'intérieur? C'est un combat politique contre le président Trump. Ils l'attaquent depuis des années, ils veulent le détruire. Nous ne pouvons pas leur faire confiance, ils vont utiliser tout cela à leur avantage pour encore une fois manipuler une élection.
De son côté, Donald Trump assure avoir déclassifié tous ses documents. Seul le ministère de la Justice peut décider de lancer des poursuites contre l'ancien président. D'après Bloomberg, aucune décision ne sera prise par les autorités avant novembre prochain pour ne pas influencer la campagne des élections de mi-mandat.
Alexis Guilleux, les funérailles de Mikhail Gorbatchev auront lieu samedi à Moscou. On ne sait pas encore si ces obsèques seront privées ou nationales, si Vladimir Poutine sera présent ou non. Le dernier dirigeant de l'URSS, je vous le rappelle, est décédé mardi soir à l'âge de 91 ans des suites d'une longue et grave maladie.
Mikhail Gorbatchev qui aura donc marqué l'histoire du XXe siècle en ayant entraîné la chute de l'Union soviétique.
Un destin hors du commun qui a également inspiré la pop culture, Marie Jiquel.
Gorbatchev dans les livres d'histoire, Gorbi dans Welcome Gorbi, la chanson de Renaud qui le décrit comme un petit bonhomme épatant.
Contre qui je n'ai pour l'instant aucun grief.
Gorbatchev, ami de Bouche-Père dans un épisode des Simpsons, où Papy Gorbi a tablé avec son petit-fils dans une publicité pour une célèbre chaîne de pizzeria. Le romancier Olivier Roger, lui, l'avait pris pour personnage dans son livre Les Hommes Incertains.
Gorbatchev est un personnage romanesque dans le sens où il va affronter le tragique de sa propre histoire. Il va provoquer par sa politique des bouleversements qui vont engendrer des séismes géopolitiques à l'échelle de la planète. Il avait cette fameuse tache, cette lie de vin sur le front qui avait là aussi quelque chose d'assez romanesque. Ce qu'il y avait aussi de romanesque dans ce personnage, c'était son épouse, Raïssa Gorbatcheva. Un petit peu comme Lady Diana, vous voyez.
Gorbatchev a aussi poussé la chansonnette. Il enregistre en 2009 un album de chansons d'amour dédié à sa femme. Ce n'est pas ce projet qui lui vaudra un Grammy, le Graal des récompenses musicales aux États-Unis, mais bien son talent de conteur dans une version de Pierre Elulu.
Les précisions de Marie Jiquel.
Ah, j'ignorais qu'il y avait un album de Mikhail Gorbatchev, décidément. On en apprend avec Marie Jiquel. Elle sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure à 7h40 pour nous parler d'une pièce romantique. Les poupées persanes, ça s'appelle. Merci Clotilde Dumais. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, l'invité de l'actualité, nous serons en ligne avec Bruno Bobkiewicz. C'est le secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation. Les grands sujets de la rentrée, que ce soit en classe ou dans les salles de prof, on va voir ça avec lui.
7h, 9h,
Europe Matin.
7h12 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité. Johan Tritz.
C'est bientôt l'heure, vous êtes encore dans votre lit en train de prendre votre petit déjeuner ou déjà de préparer votre cartable. La rentrée scolaire, c'est aujourd'hui. 12 millions d'élèves seront de retour sur les bancs de l'école tout à l'heure. La rentrée aussi pour le gouvernement. C'était hier avec un séminaire. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont donné les consignes aux ministres pour les prochaines semaines avec trois mots d'ordre. Transparence, écoute, efficacité. Aujourd'hui, le président de la République reçoit les ambassadeurs pour fixer le cap de la diplomatie dans un contexte international tendu, mais aussi au moment où les diplomates français s'interrogent sur leur métier suite à une réforme controversée de la fonction publique. Mais où est donc passé l'imam Issoukène ? En cavale depuis 48 heures pour fuir son expulsion vers le Maroc, manifestement en Belgique, dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un petit coup de frein pour l'inflation en ce mois d'août, mais le taux reste élevé. 5,8% d'augmentation des prix à la consommation sur un an contre 6,1% en juillet. Puis du football hier avec la 5e journée de Ligue 1. Le PSG a battu Toulouse sans difficulté 3-0. Les Parisiens co-leaders de la Ligue 1 avec Marseille, vainqueur de Clermont 1-0 et de Lensois flamboyant, victoire 5-2 de Lorient dans un match fou.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Je crois qu'il va falloir un petit point. L'imam Issoukène, je crois, parce que Johan Tritz, vous l'avez appelé l'imam Issoukène. Voilà,
ça fait un peu plus japonais.
Ça fait un peu japonais, ce qui n'est sans doute pas les origines de l'imam en question. Merci Johan, on vous retrouve tout à l'heure. Alors c'est donc la rentrée scolaire aujourd'hui. L'an dernier, elle avait lieu, rappelez-vous, sous le sceau de la crise sanitaire encore. Et bien cette année, c'est sous celui de la crise du recrutement des enseignants. Nous sommes en ligne avec Bruno Bobkiewicz. Bonjour à vous Bruno.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du SNPDEN-UNSA, le syndicat des personnels de direction. Vous êtes aussi le proviseur de la cité scolaire Hector Berlioz à Vincennes. On ne parle ces jours-ci à propos de l'école que de ces 3000 vacataires recrutés cet été en urgence et formés en seulement 4 jours la semaine dernière. 3000 sur 870 000 enseignants, rappelons-le. Vous allez vous-même accueillir dans votre établissement l'un ou l'une de ces enseignants de dernière minute ?
Oui, oui, c'est une situation qu'on a l'habitude de traiter. Hein. C'est tous les ans, on accueille des nouveaux personnels, que ce soit des professeurs stagiaires, des professeurs contractuels qui débutent. Mm-hmm. Ça fait partie de notre métier d'accueillir et d'accompagner ces nouveaux collègues.
Oui, il y a cette fixation sur ce statut de contractuel, Bruno Bobkiewicz, avec, on peut le dire, une forme de stigmatisation. On voit aussi des enseignants titulaires s'indigner que peut-être ces nouveaux contractuels leur passent devant. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette rentrée sous le signe des débats autour du statut des enseignants ?
Bon, je pense qu'il faut déjà pas tomber dans la caricature de contractuel égale incompétence. On a trop souvent entendu ça ces derniers jours et ce qui est proprement scandaleux. Hein. Vous avez des professeurs contractuels qui ont le même niveau de compétences que les autres. La différence, c'est qu'ils, à ce stade, n'ont pas le concours. Certains vont l'avoir, puisque effectivement, ils vont le passer à la fin de l'année ou dans les années qui viennent. En tout cas, c'est une façon, effectivement, d'intégrer le corps aujourd'hui, d'intégrer la fonction. Je comprends la polémique. Maintenant, il y a un besoin aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'il y avait des places de concours qui sont restées vacantes, et donc il faut trouver des solutions pour permettre aux élèves de recueillir un enseignement. Et donc c'est la seule façon à ce stade, dans cette situation, de traiter le problème.
Alors justement,
mais là, à ce stade, il n'y a pas le choix.
Alors justement, expliquez-nous, Bruno Bobkiewicz, de l'intérieur, pourquoi, selon vous, le plus beau métier du monde, comme disait récemment Pape Ndiaye et le ministre de l'Éducation, le métier de prof, pourquoi a-t-il autant de mal à attirer des vocations de nos jours?
Il y a plusieurs difficultés. Il y a évidemment la question de la rémunération, hein, qui est un sujet qui a également beaucoup été évoqué ces derniers temps. Il y a la question des conditions d'exercice du métier, il y a les questions des perspectives de carrière, il y a la question du niveau de recrutement qui potentiellement peut être également réinterrogé.
Détaillons un petit peu, parce que vous dites par exemple les perspectives de carrière. Rester prof toute sa carrière, c'est jugé repoussoir selon vous aujourd'hui ?
Alors il y a à la fois ça, il y a à la fois la question géographique. Hein, on entendait hier sur une autre radio un jeune professeur qui démissionnait parce qu'il ne pouvait pas retourner dans sa province. Donc il y a la perspective de carrière aussi, c'est potentiellement l'évolution géographique. Hein, vous avez plein d'enseignants qui aujourd'hui débutent dans une région qu'ils n'ont pas souhaité. Hein, je pense à l'Île-de-France en particulier, où Créteil et Versailles accueillent beaucoup de néo-titulaires. Donc ils sont déconnectés de leur ville natale, et donc ça les met en difficulté, ils souhaiteraient repartir. Mmh. Hein, et on voit bien que sur cette question, on a une problématique constante depuis des années.
Ouais.
Et puis il y a la question de l'évolution salariale, hein, qui également est un paramètre dans les perspectives de carrière. On peut intégrer ça dans cette notion générale.
Alors d'ailleurs, c'est lié à ce que vous disiez, la question du niveau attendu des enseignants. Est-ce qu'il est trop élevé? Pape Ndiaye, encore lui, se fait ouvertement cette réflexion. Est-ce nécessaire de recruter des enseignants à bac plus 5, hein, finalement?
Je pense qu'il faut mettre ce sujet sur la table. De toute façon, on voit bien que on a longtemps recruté au niveau licence, hein, rappelons-le. On a longtemps recruté d'ailleurs, et c'est une idée qui rejaillit ces derniers temps, juste après le baccalauréat, pour former en école normale les futurs enseignants. Bon voilà, il y a différentes formules qui ont existé. Je pense qu'il faut il faut remettre ça sur la table et réfléchir pour faire en sorte que demain, après-demain, eh bien, il y ait beaucoup plus de candidats au concours. Ça passe aussi par l'image générale donnée de l'éducation nationale. Je crois qu'on respecte aujourd'hui beaucoup moins les enseignants et l'éducation nationale en général. On la critique beaucoup plus que ça n'était à une époque, et c'est objectivement pas forcément justifié, me semble-t-il.
Bruno Bobkiewicz, l'école publique française, on le sait, hein, est dans la moyenne basse des pays de l'OCDE en termes de performance, notamment dans le fameux classement PISA. L'école française, l'école publique, est en outre parmi les plus inégalitaires de l'OCDE. Ce qui faisait dire à Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, il y a deux jours, que l'école se débrouille mal avec les pauvres, elle est injuste avec eux. Que vous inspire cette phrase du ministre Bruno Bobkiewicz,
hein? On partage complètement l'analyse, hein, c'est-à-dire que nous, on a l'une des valeurs portées par le SNP de l'UNINSA, c'est la mixité sociale et scolaire. Donc il faut avancer absolument sur cette question. Il faut retravailler la question de la carte scolaire, déjà. Oui. Il y a des initiatives ces derniers temps qui ont été prises. Je pense évidemment à l'affectation à Paris, je pense à la révision de l'affectation et l'expérimentation à Toulouse. Donc on voit bien que l'une des pistes pour faire évoluer cette donnée, c'est de travailler sur la mixité. Éviter de
rassembler... Donc il faut des
critères sociaux
en plus des critères géographiques qui déterminent où vous allez aller au collège ou au lycée.
Exactement, pour créer davantage de mixité, parce qu'on sait tous que ce qui fait avancer l'école et avancer les plus fragiles notamment, c'est surtout de ne pas les mettre entre eux.
Ouais, mais on va vous répondre,
et d'avancer sur la question de la mixité.
Et on va vous répondre, oui, mais nivellement par le bas aussi, Bruno Bobkiewicz.
Pas du tout. Ça, c'est les classes favorisées qui vont vous répondre ça. En réalité, la réussite des classes favorisées ne dépend pas des élèves les plus fragiles dans la classe. Ça, c'est faux de le penser.
Voilà, c'est vraiment un sujet de fond, ça, pour l'école. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin, Bruno Bobkiewicz. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SNPDEN UNSA et je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Il est 7h20 sur Europe 1.
Europe 1. Hello Work, la première plateforme française de recrutement, vous présente l'édito Éco.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Ah ben on en parlait à l'instant, rentrée scolaire sous contrainte. Il y a beaucoup plus de classes que d'enseignants en ce mois de septembre.
Oui, absolument. Et c'est un sujet aussi économique, hein, en réalité, que nous ne prenons collectivement pas assez au sérieux et qui nous fait courir des risques économiques. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus via les concours cette année. Le taux de postes pourvus, hein, en cette rentrée, il est de 83% dans le premier degré, de 83% d'ailleurs aussi dans les collèges et les lycées. C'est plus de 10 points de moins que l'année dernière. Et les chiffres sont particulièrement catastrophiques dans certaines matières fondamentales du second degré. Hein. On a un taux de postes pourvus de seulement 68% en maths, 67% en physique-chimie, 57% en lettres classiques. Alors, le problème n'est pas nouveau, mais il s'aggrave rapidement. Il est particulièrement important en région parisienne. Et vous venez d'en parler, Dimitri. L'État essaie de résoudre le problème en embauchant des contractuels avec un niveau licence, quelle que soit la licence. Alors, certains de ces contractuels sont formidables, mais certains ne sont simplement pas au niveau où on met des rustines, hein, sur un sujet fondamental.
Alors, même question que je posais à Bruno Bobkiewicz à l'instant. Est-ce que c'est un problème de salaire ?
Ah, il y a un problème de salaire. Hein. Enseigner, c'est un métier important, c'est extrêmement difficile, c'est épuisant, hein, d'être enseignant, et donc ça doit se payer. Professeur en France, titulaire du CAPES, il touche après 15 ans d'ancienneté environ 2700 euros bruts. Ouais. Ça n'est pas sérieux.
C'est 6000 euros au Luxembourg, j'ai regardé. 6000 euros, exactement. Hein, pour le même métier. Hein.
Vous avez tout à fait raison. Il faut, à mon sens, augmenter tous les salaires des enseignants de 20% en contrepartie d'une augmentation du temps en classe ou en soutien scolaire de 10%. C'est une dépense publique intelligente et indispensable. Mais, vous venez de le dire, Dimitri, il n'y a pas que le salaire. La crise des recrutements, d'ailleurs, on voit qu'elle est européenne. C'est ce que rappelait le journal Le Monde il y a quelques jours. Vous parliez du Luxembourg. L'Allemagne, par exemple, est touchée alors même que les enseignants sont bien payés en Allemagne. Un instituteur y perçoit 65 000 euros. Un professeur de lycée, plus de 75 000 euros. En fait, le métier, il est de plus en plus difficile. Les parents, soyons honnêtes, sont de plus en plus insupportables, parfois plus que les enfants. On doit collectivement renforcer considérablement le prestige social des enseignants, offrir des perspectives. C'est une question de valorisation financière et non financière.
Bon, c'est l'édito Éco, Nicolas Bouzou. Quelle implication économique de cette crise des recrutements ?
Ben, c'est ça mon sujet, hein. C'est qu'en fait nous affaiblissons l'activité économique en France demain. On est au cœur de la troisième révolution industrielle, hein, celle du numérique, de l'intelligence artificielle, des énergies décarbonées. On a notamment besoin d'ingénieurs très compétents. En fait, ce qu'on voit, c'est que les pays qui s'en sortent ont compris quelque chose, c'est qu'ils doivent placer au cœur de leur stratégie la maîtrise de l'intelligence, du savoir, de la recherche, de l'innovation, l'esprit de synthèse aussi, hein, qui demande une grande culture générale. Mais la crise des recrutements des enseignants, elle peut se transformer en déclin économique durable. C'est ça le risque, c'est ça ce risque que nous ne prenons pas assez au sérieux.
Et un pays qui traite mal ses enfants, effectivement, ça pose beaucoup de questions. Merci Nicolas Bouzou. L'école, d'ailleurs, je vous le signale, sera demain l'objet de la matinale, sera le thème central de notre matinale. Je vais vous en reparler d'ici 9h. Merci Nicolas Bouzou. Dans un instant, le jour où, juste après, le journal permanent sur Europe 1.
C'était l'édito Éco avec Hello Work, la première plateforme française de recrutement. Chaque jour, plus de 4000 recrutements partout en France grâce à Hello Work. Plus d'infos sur le site ou l'application. Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, Johan Tritz.
Jeudi 1er septembre, jour de rentrée scolaire, mais il va y avoir aussi des petits changements dans votre quotidien. Vous allez sans doute avoir une belle surprise en allant faire le plein. La ristourne à la pompe passe de 18 à 30 centimes. Autre changement, le plafond d'utilisation des tickets restaurants va passer de 19 à 25 euros. Aujourd'hui débute la mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique à la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Elle souhaite établir une présence permanente pour éviter une éventuelle catastrophe. Et du tennis, c'est US Open, Serena Williams repousse la retraite en gagnant son duel face à la numéro 2 mondiale l'Estonienne Kontaveit au deuxième tour. On en parle en longueur dans le journal de 7h30. Qualification aussi pour les Français Caroline Garcia et Corentin Moutet.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
En ce 1er septembre, la remise carburant à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre, conformément à la loi pouvoir d'achat votée cet été. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors vous revenez ce matin à travers les archives d'Europe 1 sur l'histoire des prix de l'essence et la France en a connu des poussées d'inflation à la pompe.
Oui, remontons par exemple à l'année 1957. Nous sommes quelques mois après la crise de Suez, la crise du canal de Suez, et on assiste en France à une ruée sur l'essence avant une augmentation des prix. Le gouvernement, lui, a instauré des tickets de rationnement.
Il y en a certains qui ont des tickets et qui voudraient faire le plein avant l'augmentation. Hier, ça a été pareil. En plus de ça, les gens viennent, il y a beaucoup de voitures qui viennent et qui veulent avoir de l'essence, mais sans ticket.
Vous en donnez sans ticket ?
Ben, on a bien du mal.
Dites-moi, combien avez-vous vendu de litres d'essence depuis ce matin ?
Depuis ce matin, 3000 litres.
Et habituellement, combien en vendez-vous ?
À cette heure-ci, 2000.
Hausse du prix de l'essence significative aussi une quinzaine d'années plus tard, après le choc pétrolier de 1973. Les personnalités politiques au pouvoir préviennent, le niveau de vie des Français sera réduit et il faut que les automobilistes essaient de rouler moins.
Quand il faut rouler beaucoup tous les jours comme nous on roule tous les jours, ça nous revient très cher, disons. Disons que je roulerai peut-être quand même moins, mais je ne me priverai quand même pas de rouler. Parce que l'essence a augmenté.
Oh ben c'est désastreux, quoi.
Une fois de plus, on est encore les premiers partout, puisque je viens d'apprendre à l'instant qu'on est les plus chers d'Europe.
Voilà, il y a aussi cet autre événement en 1985, lors de la libération des prix des carburants.
Oui, la liberté des prix devient la règle, décision du gouvernement, et cette libéralisation des prix entraîne une grosse concurrence en 1985-1986 entre les distributeurs d'essence. Sur Europe 1, le journaliste Jean-Louis Calderon raconte.
La grande majorité s'est en effet alignée sur la baisse annoncée par Esso. Je n'ai rencontré que deux stations-service affichant le litre de super à plus de 5 francs, et puis toujours moins de 5 francs, mais tout juste chez Shell et Total. Voilà pour ce pointage, et à moins que vous ne souhaitiez que je continue jusqu'à Lille, eh bien, je rentre à la rédaction.
Voilà pour le petit message personnel du journaliste à sa rédaction. Bon, un constat sera fait quelques années plus tard, avec cette libéralisation des prix, beaucoup de stations-service indépendantes disparaîtront.
Il y a d'autres facteurs, évidemment, mais c'est important. Merci Laure d'Autriche. Allez, à suivre dans Europe Matin, c'est le livre le plus chaud de la rentrée, signé Emma Becker. Vous savez, c'est l'écrivaine qui a volontairement passé 3 ans dans les bordels de Berlin. Son nouveau livre s'appelle L'Inconduite. Nicolas Caro l'a lu, il en a encore des sueurs. Fiche de lecture dans un petit quart d'heure. 7h27.
Europe Matin.
Le temps sur Europa, Anissa Dadi. Bon, comment on habille les enfants ce matin ?
Léger, très léger.
Vous êtes
pas
sûr,
de pull.
Partout où qu'on soit ?
Oui, petite veste. Allez, la petite veste ce matin, parce qu'il fait un peu frais, mais enfin, on a 10 à 15 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 22 au bord de la Méditerranée. C'est très doux cet après-midi. 23 à Lorient, 25 à Caen et Dunkerque, 27 à Nice et Clermont-Ferrand, 29 à Paris, 32 à Marseille et Perpignan, 34 à Nîmes. Alors, on les habille légers, mais on prévoit un petit impair du côté du nord-ouest, hein, la Bretagne, la Basse-Normandie, les pays de la Loire et le Poitou. Des petites averses tout au long de la journée avec même un petit coup de tonnerre. Et puis il pleut sur le nord de la Corse aussi, mais ça va se dégager au fil des heures. Tiens, vous voulez une petite info de dernière minute ?
Ben oui.
Les vacances de la Toussaint, c'est dans 51 jours.
Ah oui, d'accord.
Oh ben, je prépare les enfants.
J'aime bien la vie en décompte. Moins 51 jours avant les prochaines vacances. Merci beaucoup Anissa. On vous retrouve juste avant 8h. Excellente journée et bon courage en cette rentrée scolaire. Il est 7h30 sur Europe 1.
Europe Matin,
7h, 9h,
Dimitri Pavlenko.
Et on vous imagine, c'est peut-être le coup de feu chez vous, petit-déj, cartable, goûter, peut-être avez-vous, j'espère que vous n'avez rien oublié, il ne faut pas être en retard à l'école ce matin, rentrée scolaire. Ce matin, sans masque ni restrictions sanitaires, c'est une découverte pour certains élèves. Sortez le portefeuille si vous roulez à moto dans Paris, le stationnement devient payant dans la capitale pour les deux roues motorisées, sauf pour les électriques. D'ailleurs, les ventes grimpent en flèche, reportage. Et puis l'US Open où Serena Williams fait durer le plaisir, on l'a pensé proche de la retraite, et bien la joueuse a battu cette nuit la numéro 2 mondiale.
Europe 1.
Le journal Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous.
Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré.
La cour de récré, où on l'espère, il n'y aura quand même pas de bagarre pour le jour de la rentrée. D'ailleurs, c'est là que 12 millions d'élèves ont rendez-vous tout à l'heure. Alors, vous connaissez le rituel, on retrouve les copains, la maîtresse fait l'appel, et puis ça y est, c'est parti, avec le sourire. Tout ça sans masque. Après 2 ans de Covid, Léana entre au CE1, et pour la première fois, elle va découvrir l'école sans restrictions sanitaires.
plus soulagée parce que déjà on comprend mieux ce que tout le monde nous dit. Et en fait, ça fait du bien parce qu'on a l'impression en fait qu'il n'y a plus le Covid. Mais j'ai quand même peur que le Covid revienne, qu'on doit remettre les masques. Moi, j'ai très peur que je leur file aux autres. Je vais aller me laver les mains dès que je vais aller manger, dès que on va faire quelque chose et qu'on devra utiliser les mains.
Voilà les bons réflexes de Léana qui a raison de rester prudente avec le Covid. Encore 18 000 nouveaux cas chaque jour.
Ouais, elle parle bien, la petite Léana. L'école, c'est le chantier prioritaire du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça n'est pas qu'une expression, qu'un slogan politique. À Marseille, le président a promis, rappelez-vous, un plan de rénovation.
Oui, hein. C'était en octobre, une enveloppe de plus d'un milliard d'euros pour les 470 écoles de la ville, rongées pour certaines par l'insalubrité. Où en sont justement les travaux en ce jour de rentrée ? État des lieux avec notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat.
Mauvaise surprise au retour des vacances pour Michael Brigliano, professeur à l'école du Boulevard National.
Voilà, donc vous avez notre bibliothèque d'école. Vous avez une plaque de faux plafond qui était tombée au milieu de la salle. Et à chaque nouvel orage, soit ça retombe, soit ça recoule.
Le groupe scolaire doit bénéficier d'importantes réfections. Le chantier débutera dans un an, mais les choses ne vont pas assez vite, selon l'enseignant.
Cette école, maintenant, elle est un peu malheureusement symbolique des écoles de Marseille. Hein. Quand il pleut dehors, il pleut aussi à l'intérieur. C'est clairement une vieille école en fin de course. Et les cafards, les souris qu'on retrouve dans nos classes, régulièrement, les salles qui sont trop exiguës, les morceaux de murs qui se décrochent, qui tombent dans la cour.
Il reste beaucoup à faire, certes, mais le plan de rénovation avance bien, se défend l'adjoint au maire en charge des écoles, Pierre-Marie Ganosi.
Quand on parle d'un budget à 1 milliard d'euros, évidemment, tout le monde voudrait être les premiers à avoir cette amélioration. Il y a beaucoup d'impatience. Tout ça, c'est pharaonique. On ne peut pas tout démarrer en même temps parce que sinon, on n'aurait pas la place pour mettre les enfants pendant les travaux. Donc, il faut faire ça avec ordre et méthode. On va y arriver. Moi, je ne demande pas aux parents d'élèves ou aux enseignants de nous faire un chèque en blanc, mais juste de nous faire confiance.
Élu qui rappelle l'ampleur du chantier qui s'étale sur les 10 prochaines années. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
7h33, 30 centimes, voilà la remise qui vous attend à la pompe à essence ce matin et jusqu'à fin octobre. Un lot de consolation, on peut le dire, pour les conducteurs de deux roues à Paris. Dès ce jeudi, fini le stationnement gratuit.
Ah oui, ça va être un vrai budget puisque ce sera 2 à 3 euros par heure de stationnement. Un nouveau tarif pour garer son scooter ou sa moto dans la capitale.
Oui, une mesure actée par la mairie de Paris. Le but, encourager les usagers à se tourner vers les deux roues électriques. Pour eux, le parking restera gratuit. Alors l'électrique, pourquoi pas si vous avez le budget, mais encore faut-il trouver du stock en magasin. Et ce n'est pas si simple, comme l'a constaté Louise Douillet pour Europe 1.
Entre 25 et 37 euros par jour, c'est ce que vous devrez désormais débourser pour stationner votre scooter thermique dans Paris sans carte de résident. Maurice en vend depuis plus de 30 ans et ne cache pas son inquiétude.
Ces véhicules thermiques, on va devoir forcément les écouler, quitte à les vendre au moins les prix qu'on les a rachetés, en dehors de Paris, en province ou ailleurs. Mais pour les véhicules électriques, il va falloir qu'on puisse s'approvisionner de façon à ce qu'on en ait assez pour pouvoir fournir notre clientèle, pour créer un roulement et pour que derrière, on puisse avoir du pain sur la planche en atelier, pour qu'on puisse avoir des pièces à remplacer plus fréquemment et surtout pour que ça puisse nous rapporter au moins de quoi pouvoir faire tenir nos magasins.
Une aubaine pour Nicolas, concessionnaire de scooters exclusivement électriques chez Pitlane. 10 fois plus de clients depuis le vote de la mesure début juillet.
Hier, j'ai vu 15 ou 16 clients. Je vais réouvrir le samedi pour satisfaire les demandes du samedi.
Sauf que Nicolas n'est pas certain de pouvoir répondre à cette hausse de la demande.
Aujourd'hui, on se retrouve avec des pénuries et des disponibilités qui s'allongent sur certaines pièces, même sur certains véhicules. On sera obligé de trouver des solutions ou de perdre les ventes.
Les délais de livraison peuvent en effet atteindre les 2 mois selon les modèles.
Louise Douillet, et l'autre changement du 1er septembre, c'est dans votre assiette avec le plafond de vos tickets restaurants. Il augmente 25 euros par jour contre 19 auparavant.
Alors, on parlait de la rentrée scolaire. C'est aussi la rentrée pour une revenante. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, arrive aujourd'hui à la Cour des comptes.
Oui, elle n'est pas seule parmi les ex-cadres de la Macronie. Pour la plupart des anciens membres du gouvernement, recasés à des postes clés après leur défaite aux législatives. Ses proches du président bénéficient d'un coup de pouce, Victor Chabert. Une vieille méthode qui fait toujours recette.
Oui, c'est une vieille pratique qu'Emmanuel Macron perpétue. Dernier exemple en date, l'éphémère ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, battue aux législatives, a été nommée au poste d'inspectrice générale des affaires sociales. L'ancienne ministre du Logement, Emmanuel Wargon, éliminée dès le premier tour en juin dernier, a pris la tête, elle, de la très importante commission de régulation de l'énergie, provoquant la colère de l'opposition. Parfois, les compétences sont assez éloignées des postes. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, hématologue de profession, a par exemple été nommée conseillère maître à la Cour des comptes. Jean Castex, quant à lui, est devenu le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. L'ancien Premier ministre n'a jamais caché sa passion pour le ferroviaire.
Victor Chabert, 7h36, jusqu'où ira Serena Williams ?
Serena Williams.
Les applaudissements, les cris même du public new-yorkais, c'était cette nuit à l'US
c'est
Open.
La folie,
c'est la folie dans les gradins, on peut le dire.
C'est Beyoncé.
Alors la joueuse américaine, justement, étincelante comme sa tenue ornée de paillettes magnifiques. Elle s'est qualifiée cette nuit pour le troisième tour du tournoi, probablement le dernier de sa carrière.
Victoire donc, et quelle victoire, Dimitri Vernet. Serena Williams a tout simplement sorti la deuxième joueuse mondiale.
Oui, une victoire en 3-7 face à l'estonienne Anett Kontaveit, 7-6, 2-6, 6-2, motivée comme à ses plus belles heures. La star américaine de 40 ans semble prendre un malin plaisir à repousser l'heure de la retraite, surtout quand à la fin du match, on lui demande d'expliquer comment, malgré le peu de matchs joués depuis plus d'un an, elle avait fait pour battre la numéro 2 mondiale.
Très bien, je suis une assez bonne joueuse.
Sûre de son niveau, l'américaine est pourtant classée 605e mondiale et avant d'arriver à l'US Open, elle n'avait remporté qu'un seul match. C'est pour cela que son niveau étonne. Mais pour une joueuse de son calibre avec 23 grands chelems à son actif, rien ne semble impossible, surtout pour une dernière danse. Elle nous donne donc rendez-vous vendredi soir pour le troisième tour de la compétition face à l'Australienne Alia Tomljanovic, 46e mondiale, où tout New York espère entendre encore une dernière fois un dernier come on.
Commande. Merci Dimitri Vernet. D'ailleurs, on la retrouve aussi cette nuit, Serena Williams, qui joue en double avec sa sœur Vénus. Pour ce qui est du simple, au troisième tour, on espère aussi retrouver Alizé Cornet et Clara Burel. Les deux Françaises jouent leur qualification aujourd'hui.
Voilà, match à suivre évidemment dans Europe 1 Sport. C'est tous les soirs, 20h, 23h30, 7 jours sur 7. Une invitée de marque ce soir, d'ailleurs, je vous le signale. Virginie Fulpin reçoit la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Voilà pour le programme. Merci beaucoup Romain Oquet, c'était votre journal. On va vous retrouver tout à l'heure sur les coups de 9h. Dans un instant sur Europe 1, il fallait bien trouver quelqu'un pour dire son fait à la Chine à propos des Ouïghours. Eh bien, on l'a trouvé, c'est Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili. Vincent Hervouette va nous raconter cela dans quelques minutes. Il est
7h38. 7h, 9h,
Europe Matin. Il est 7h41, l'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent sur Europe 1, Johan Tritz.
L'imam Iqiyoussen, toujours introuvable en cavale depuis 48 heures pour fuir son expulsion vers le Maroc. Il est manifestement en Belgique, dit le ministère de l'Intérieur. C'est bientôt l'heure, le réveil a déjà sonné pour certains, la petite boule au ventre où l'excitation commence à monter. Jour de rentrée scolaire, 12 millions d'élèves seront de retour sur les bancs de l'école tout à l'heure. Petit coup de frein pour l'inflation en ce mois d'août, mais le taux reste élevé, 5,8% d'augmentation des prix à la consommation sur un an contre 6,1% en juillet selon l'INSEE. Autre chiffre qui concerne cette fois-ci l'automobile, le secteur a connu un léger rebond en août 2022, plus 3,79% sur un an. Au total, 91 000 voitures ont été immatriculées pour la première fois. C'est tout de même un tiers de moins qu'en 2019. Tiens, et pour ceux qui ont une voiture ou un deux roues, il y a du changement ce matin. La ristourne à la pompe de l'État passe de 18 à 30 centimes.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Dans un instant sur Europe 1, votre page culture, Nicolas Caro pour le livre. Oh là, c'est le plus chaud de la rentrée, hein.
Ah oui, sans le moindre doute.
L'Inconduite, a signé Emma Baker. Vous vous rappelez, c'est elle qui avait passé 3 ans dans les bordels.
Exactement.
De Berlin.
Exactement.
Qu'on avait fait un livre.
Magnifique.
Et Marie Gicquel dans un registre beaucoup plus chaste, évidemment.
Il y a de l'amour quand même.
Oui, voilà, je veux dire, quoique, c'est une pièce qui s'appelle Les Poupées Persanes. Très romantique, c'est au Théâtre des Béliers parisiens. Vous êtes allé la voir, vous allez nous raconter ça. Mais d'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors, in extremis, Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a sauvé l'honneur, hein, le sien. Elle vient de publier un rapport sur les Ouïghours, rapport qui était promis depuis des années.
Hein. Oui, c'est une bataille homérique, en sourdine, mais violente et frontale. Une bataille entre la Chine et les anglo-saxons. Elle a pourri le mandat de Michelle Bachelet à la tête du haut-commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, à tel point qu'elle a jeté l'éponge. Elle a terminé hier soir son mandat de 4 ans. Elle ne se représente pas, c'est sans précédent.
Alors Michelle Bachelet, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une icône de la gauche latino-américaine. Elle a été une icône.
Oui, elle a été torturée sous Pinochet avec ses parents. Elle a connu l'exil. Elle a été la première femme présidente du Chili, réélue 8 ans après. Ensuite, donc, Genève, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, où elle s'est retrouvée clouée au pilori. Des dizaines d'ONG ont publiquement dénoncé son manque de courage face à la Chine. Les plus indulgents disent qu'elle est trop diplomate. Les plus virulents la soupçonnent d'avoir été achetée.
Et oui, parce que pendant 4 ans, elle a soigneusement évité ce piège ouïghour.
Elle a traité avec des pincettes la répression au Xinjiang, les camps où ont été rééduqués jusqu'à 1 million de musulmans, les campagnes de stérilisation, le travail forcé, le gouvernement américain, les parlements britanniques, canadiens et l'Assemblée nationale en France dénoncent un génocide. Pékin proteste avec véhémence et prétend avoir pacifié une région minée par les islamistes et par les séparatistes. Michelle Bachelet, si vive à se saisir de la cause des Gilets jaunes, a traîné les pieds avant de mener une mission sur le terrain, soigneusement encadrée par les Chinois et dans l'opacité la plus totale. Et depuis, on attendait son rapport. 200 ONG internationales ont pétitionné pour une publication en urgence. Les Chinois ont riposté sur Twitter avec une lettre ouverte de 1000 associations, ouais, invitant la haut commissaire à se tenir du bon côté de l'histoire. Et depuis un an, le document était promis, toujours, next week, la semana proxima, Bukra, est toujours en vain.
Et ben voilà, ce rapport, il est tombé à minuit, à la dernière heure du dernier jour de la présidence Bachelet. Hein.
Au 31 du mois d'août, vous vous souvenez de la chanson de Marin qui dit « Maire de roi d'Angleterre » Eh bien, Michel Bachelet, elle a dit la même chose à l'empereur de Chine, mais in extremis, après avoir plié bagage, c'est une sorte de courage posthume. Elle rend les clés, mais elle laisse cette grenade dégoupillée sur son bureau.
Alors, le rapport, vous l'avez lu, Vincent ?
Ben, il dit qu'il y a des preuves crédibles de torture et de violence, que l'ampleur des détentions arbitraires peut constituer un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de révélation, mais ça va obliger le Conseil des droits de l'homme à se pencher sur le dossier ouïghour. Les Chinois n'ont donc pas réussi à l'enterrer. Ils ont beau avoir noyauté tous les étages du machin, ils doivent encore rendre des comptes. L'ambassadrice pour les droits de l'homme, Rita French, si mal nommée puisqu'elle est anglaise, mais qui porte bien son nom parce qu'elle parle avec franchise, Rita French a conclu « Aucun État doit être autorisé à étouffer la voix indépendante du haut-commissaire ».
Alors qui va remplacer Michel Bachelet justement ?
Personne. Un haut fonctionnaire pour l'intérim, c'est trop sensible. Le secrétaire général va prendre tout son temps pour décourager les Chinois de se venger, les Américains de triompher et laisser Michel Bachelet se faire oublier.
Voilà, dossier ultra, ultra chaud. Hein, donc, hein. Merci Vincent Hervouet. Information de dernière minute, décortiquée, analysée avec votre maestria habituelle. Oh là là, il est sympa Pavlenko.
Et merci pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
Bah voilà, parfait, 7h46.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Alors j'avais envie de vous dire, Nicolas, va enchaîner après ça quand même, parce que c'était quand même un sujet extrêmement chaud et lourd. Bon, ce matin, un roman qui fait beaucoup parler de lui en cette rentrée littéraire. Hein.
Celui d'Emma Becker, L'Inconduite, chez Albin Michel. Effectivement, elle fait partie des figures qui commencent à émerger dans la jungle littéraire, mais on la connaissait déjà pour La Maison, en 2019, le récit de 3 années dans des maisons closes de Berlin, qui vous a beaucoup plu, Dimitri. C'était un roman effectivement assez dingue et sulfureux.
Alors donc, celui-ci, L'Inconduite aussi, hein ?
Absolument. Même si le roman s'ouvre sur une ambiance triste et touchante, la narratrice est en train de perdre son grand-père. C'est très beau. À un moment, elle se souvient de la taille de sa main de petite fille dans celle de son grand-père. Ça parle, ça, non ? Mais elle a bien grandi depuis et elle s'était un peu brouillée avec lui d'ailleurs, puisqu'il lui reprochait son attitude désinvolte et son attrait un peu trop exagéré pour les hommes au détriment de ses études. Et effectivement, parallèlement, on suit la vie sexuelle de l'héroïne. Elle a un enfant, elle est en couple, mais ça ne l'empêche pas d'aller voir ailleurs régulièrement, frénétiquement même. Elle est avide de désirs, de nouveautés, de rencontres. Parfois, souvent même, c'est un désastre. Parfois, c'est très drôle. Quelquefois, c'est charmant. Elle se cherche et elle se perd aussi dans une quête de sexe sans fin. Elle tente des expériences.
Alors, qui sont, j'imagine, décrites dans ses romans. Hein.
Évidemment. C'est un tourbillon de sexe, ce livre. C'est cru, c'est direct. Mais bon, d'abord, c'est très bien écrit, c'est fin, c'est intelligent. Et surtout, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'est trompé. Ce n'est pas un roman érotique, c'est un roman sur le fantasme et sur la manière dont on cherche sa place.
Ben voyons.
C'est mon interprétation.
Oui, voilà.
Mais par exemple, les scénarios, mais c'est vrai en plus, que l'héroïne invente ne se réalisent quasiment jamais comme elle voudrait. Et même pendant l'acte, elle est en train de se demander comment elle écrira
ensuite ce moment. Elle ne vit pas ce moment. Au début, c'était moustillant, et à un moment, on se demande s'il ne vaut pas mieux que tout ça reste à l'état de rêve, ou de roman, ou de scénario. La réalité s'avère décevante, trompeuse, éventuellement dangereuse.
Et on se dit qu'elle a des scrupules à la fin, vu le titre, L'Inconduite.
Bah parce qu'elle ne se conduit pas comme ce qu'on considère être une mère et une compagne convenable. C'est un roman sur la maternité aussi, sur ce que ça change d'un point de vue bêtement pratique, le planning, les obligations, et sur le regard social, sur la conduite à adopter, ou l'inconduite, donc, pour Emma Becker. C'est aussi un roman d'amour, un vrai. Il y a bizarrement une forme de suspense aussi. Et c'est vraiment très drôle, croyez-moi. Mais le vrai grand humour, celui qui sert à éviter d'en pleurer, bien sûr.
Voilà, aussi vulgaire que littéraire, dit ce matin, je crois, le point. L'inconduite, donc, c'est signé Emma Becker. Chez Albin Michel.
Je discuterai avec le contrat. Vous
discuterez des termes du contrat. Merci Nicolas. Vous restez là. Marie Jiquel est avec nous. On va s'évader maintenant sur les plateaux de théâtre dans les dédales des expos. On va surtout partir en Iran dans les années 70.
Alors,
ah, quel exotisme.
En Iran, Dimitri, mais on reste à Paris, au Théâtre des Béliers parisiens, avec cette pièce, Les poupées persanes, un conte d'amour sur fond de révolution iranienne, à l'écriture très vivante. Alors, entre deux éclats de rire, hein, je vous conseille de garder les mouchoirs pas loin. Et je sais que vous êtes des grands romantiques autour de cette table. Eh bien, vous serez servis. La pièce est écrite et jouée par Aïda Asgharzadeh, qui est un peu fleur bleue.
Mon côté fleur bleue, c'est peut-être vraiment de croire que... Ça va être très niais de dire ça, mais que c'est l'amour qui nous sauvera tous.
Et depuis que t'es là, que tu émets des ondes, que tu parles, que tu ris, que tu hésites, j'ai l'impression que tout ton spectre happe le mien. Si bien que nous sommes en quelque sorte sur la même fréquence.
C'est inspirant, hein?
Oui, magnifique. Le plus romantique, c'est Alexis Brézet, incontestablement. Il vient de s'installer, il vous écoute avec passion. Les poupées persanes, donc c'est carton du dernier Festival d'Avignon.
Et hein. Oui, et c'est donc le spectacle de la rentrée. J'ai compté, Dimitri, 5 rappels lors des applaudissements. Alors, cette histoire met en scène deux étudiants, Bijan et Manijé, prénoms qui font référence à des amoureux légendaires perses, les Roméo et Juliette de l'Iran, si vous voulez.
Alors, ce jeune couple et leurs amis vont être bouleversés par la révolution iranienne à la fin des années 70.
On suit leur rencontre à la bibliothèque, qui n'en a pas rêvé. Et leur désillusion face à une situation politique tendue, Aïda Asgharzadeh a puisé dans son histoire personnelle.
Le spectacle raconte en très grande partie l'histoire de mes parents.
Retiens-la ! Mais comment ? Chante ! Quoi ? Non mais ça va pas ! Je te jure, fais confiance à mon génie, Janab ! Chante !
Enfin, on est dans une bibliothèque !
Et Eshremane !
Quand j'étais petite, quand je disais que j'étais iranienne, personne ne savait quel était ce pays. On me disait irakienne, j'étais là, non, iranienne. À un point où à un moment j'ai commencé à dire que j'étais espagnole.
Alors, il y a des ponts, des ellipses temporelles, le couple quand jeune, même. Puis 20 ans plus tard. D'où cette idée de poupée qui s'emboîte. Vous l'avez entendu, il y a un côté Cyrano de Bergerac, une mise en scène rythmée et cinématographique servie par des comédiens très en forme et heureux d'être sur scène. La pièce est en fait ce qu'on attend du théâtre, un divertissement très loin de l'ennui. Je vous garantis que vous n'entendrez pas vos voisins tripoter leur programme ou leur bouteille d'eau. Le public est envoûté par cette histoire romantique et politique.
Il y a un petit plus, outre... la performance scénique. Hein.
Eh bien, ce sont les décors toujours astucieux, ludiques, qui se déplisent, débloquent. On aime aussi ce côté très simple, pas prétentieux.
Voilà, les poupées persanes, c'est au Théâtre des Béliers parisiens. Ça fait un peu penser à Persepolis, hein, finalement.
Oui, et les poupées russes aussi.
Voilà, c'est tous les soirs. Ah oui, les poupées, bah oui, bien sûr, mais iraniennes. Ou espagnol, les poupées espagnoles. Tous les soirs à 21h, le dimanche à 15h, avant sans doute une tournée en région. En tout cas, on l'espère pour eux. Merci Marie Jiquel, merci Nicolas, on vous retrouve.
Merci Dimitri.
Demain même heure, 7h51 sur Europe 1.
Europe Matin.
L'essentiel de l'actualité sur Europe 1, Johan Tritz.
Vous êtes peut-être au petit déjeuner ou en train de préparer votre cartable. Jour de rentrée scolaire aujourd'hui pour 12 millions d'élèves qui vont prendre le chemin de l'école. Aujourd'hui débute la mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique à la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Elle souhaite établir une présence permanente pour éviter une éventuelle catastrophe. En parallèle de cette visite, l'Ukraine accuse la Russie de bombarder la ville où se trouve la centrale nucléaire. Et du tennis à l'US Open, Serena Williams toujours en vie. Elle s'est qualifiée pour le troisième tour en battant la numéro 2 mondiale, l'estonienne Kontaveit. Qualification aussi pour les Français, Caroline Garcia et Corentin Moutet.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.
L'édito politique sur Europe 1, bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, l'imam Iqiyoussen, l'affaire Iqiyoussen, épisode 72. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? L'homme s'est donc envolé vers la Belgique, dit-on, avant que la police ne vienne le cueillir chez lui. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est vraiment une humiliation politique, Alexis.
Une humiliation? Mais pas du tout, mais vous n'y pensez pas.
Vous n'avez pas écouté ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur ? L'imam Iqiyoussen devait être expulsé. C'est fait. Il s'est auto-expulsé vers la Belgique. Il ne reviendra pas en France, donc tout va bien. Bon, faudra tout de même l'expliquer aux Belges. En vérité, vous l'avez dit, et les faits parlent d'eux-mêmes, ce ratage est évidemment vexant pour Gérald Darmanin. Il s'était impliqué, exposé personnellement dans cette procédure. Il était sur le point, après la décision du Conseil d'État, de remporter une belle victoire politique. Patatras, tout s'effondre. Après un été en fanfare, le ministre de l'Intérieur revient à la casse-tête de France. Pas la meilleure pour lui. Humiliant, ce camouflet l'est aussi pour l'ensemble du gouvernement. Donc, ce n'est pas un mystère, le bilan en matière de sécurité, d'immigration, de laïcité n'est pas exactement le point fort. Il espérait faire de l'expulsion de ce prêcheur de haine un symbole éclatant de fermeté. C'est raté. Mais je dirais, fondamentalement, au-delà des questions politiciennes, que tout ceci est surtout navrant pour tous les Français qui considèrent que la lutte contre l'islam radical est une priorité absolue et qui assistent médusés à ces échecs à répétition dès qu'il s'agit d'expulser un imam ou de fermer une mosquée salafiste.
Alors malgré tout, Alexis, alors le tribunal administratif de Paris avait refusé l'expulsion de l'imam Iqiyoussen, le Conseil d'État, donc jusqu'ici réputé plutôt protecteur du droit des étrangers, hein, a finalement autorisé l'opération. C'est le signe qu'on peut tout de même arriver à quelque chose.
Certes, mais avez-vous conscience du parcours du combattant qu'il a fallu accomplir pour arriver à presque expulser un imam ? Tenez-vous bien. Il a d'abord fallu une loi. La fameuse loi séparatisme, votée après le sauvage assassinat de Samuel Paty. Et en ce jour de rentrée, je crois que nous pourrions avoir une pensée pour lui. Puis, il a fallu une circulaire ministérielle pour préciser les conditions d'application de cette loi. Puis, le préfet de Hauts-de-France a engagé une procédure d'expulsion contre Iqiyoussen. Puis, le cas a été soumis à une commission d'expulsion, présidée par un juge judiciaire. Puis, l'affaire a été examinée par la Cour européenne des droits de l'homme. Par miracle, elle n'a pas condamné l'expulsion. Puis, il a fallu obtenir du Maroc un laissez-passer consulaire, sans quoi l'imam n'aurait pas pu être admis dans le pays dont il a la nationalité. Puis, le cas a été soumis au tribunal administratif qui a dit non, et puis enfin au Conseil d'État qui a dit oui. Mais vous vous rendez compte ? Tout ça pour qu'à la fin des fins, Iqiyoussen se fasse la belle et que pour couronner le tout, le Maroc, comme Repin l'a révélé hier, suspende le fameux laissez-passer.
Oui.
Mais c'est accablant.
Oui, vous pensez vraiment que la fuite de l'imam Iqiyoussen aurait pu être évitée ?
Je ne suis pas sûr. Et on nous dit, et c'est sûrement vrai, qu'avant la décision du Conseil d'État, il était impossible de placer en rétention ou de retenir en France quelqu'un qui, c'est vrai, aux yeux de la loi, n'était ni un fugitif, ni un délinquant. Bon, soit. Mais enfin, on aurait pu le surveiller. On aurait pu au moins prévenir Darmanin que l'oiseau s'était envolé. Ça aurait évité au ministre de l'Intérieur de plastronner mardi dans la cour de Beauvau. Et ça lui aurait évité aussi de donner à ce qui était au départ une vraie victoire judiciaire les apparences d'un fiasco politique.
Ouais, on imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se faire souffler dans les bronches hier au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Alexis Brézet du Figaro. À la une de votre journal ce matin, Iqiyoussen, l'imam qui défie la France. Il est 7h56.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Allez, à suivre sur Europe 1, l'invité d'Europe Matin, témoignage choc de l'intérieur de l'école sur les atteintes à la laïcité. C'est un prof. Il prend la plume pour briser le silence. Il se fait appeler Laurent Valogne, nom d'emprunt. Il est au micro de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h13. Et puis, un nouveau rendez-vous, 8h37. Vous le savez, les signatures Europe 1. Et ce matin, c'est la première de Géraldine Vosner qui va nous parler de Greenpeace. À tout de suite.
Europe 1.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure ? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Bientôt 8h sur Europe 1, le temps à Nice, a dit la rentrée est globalement estivale.
Hein. Oui, c'est une belle journée.
Bon,
une belle journée,
trois semaines, hein.
Le mois de septembre, ouais, effectivement. Alors attention, été le 21 septembre, fin de l'été, mais été météorologique, ça y est, c'est fini aujourd'hui normalement. Hein. 1er septembre, on passe en phase automnale pour la météo en tout cas. Mais ça reste très estival. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir des températures très douces cet après-midi. Comptez 22 à 25 degrés sur le nord-ouest, 26 à 29 sur la moitié nord du pays et jusqu'à 33 au bord de la Méditerranée. Bon, t-shirt pour tout le monde, sauf peut-être dans le nord-ouest, du côté du Finistère, sur le golfe du Morbihan, en Ille-et-Vilaine, sur les Pays de la Loire, même jusqu'en Corse, à l'ouest de la Corse. On a des petites averses ce matin, donc il faut prévoir un petit impair. Et puis sur les Alpes du Sud et les Pyrénées aussi, en montagne, on aura quelques gouttes et même quelques coups de tonnerre. Si j'ai pas parlé de vous, c'est que pour vous, c'est du grand soleil. Aujourd'hui, encore une très très belle journée avec des températures, vous l'avez compris, au-dessus des moyennes de saison.
Merci beaucoup Anissa, excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est 8h. Nous sommes le jeudi 1er septembre et bon courage à tous ceux qui font leur rentrée aujourd'hui.
7h-9h.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Top départ donc, c'est parti pour la rentrée pour 12,5 millions d'élèves. Et cette question, y aura-t-il un enseignant devant chaque classe? Le ministre de l'Éducation l'a promis cet été. C'est donc l'heure de vérité. Europe 1 est en direct dans un instant d'une école primaire du 17e arrondissement de Paris. L'imam Iqiyoussen en fuite en Belgique, selon Gérald Darmanin. Conséquence, il lui sera interdit de rentrer en France, affirme le ministre de l'Intérieur. De son côté, le Maroc ne veut plus l'accueillir sur son sol. Nous serons en direct de Casablanca. Et puis la crise et les prix qui augmentent plus chez les discounters que dans les grandes surfaces. Alors pourquoi? Comment? Réponse à suivre. À 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un puissant témoignage, un cri d'alarme d'un professeur contraint à l'anonymat que je vous propose ce matin. Il est en exclusivité sur Europe 1. L'enseignant est à l'origine du livre « Ces petits renoncements qui tuent ». Il a accepté de se livrer. L'école est la gangrène de l'islamisme. Édifiant. À tout à l'heure.
Europe 1. Le journal de 8h vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. S'il y a bien un jour où il ne faut pas manquer l'appel, c'est celui-là. On parle bien sûr de la rentrée scolaire. 12,5 millions d'élèves s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école. Ce matin, rentrée sans masque, une première depuis 2 ans et avec des enseignants si possible. 3000 contractuels ont été recrutés cet été pour combler les trous. On prend tout de suite la direction d'une école primaire du 17e arrondissement de Paris. Bonjour Louise Salé.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, est-ce que les enfants sont déjà là?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. La rue est un peu déserte. À travers la grille, j'aperçois la cour où on balaie les dernières feuilles mortes avant l'ouverture des portes à 8h20. En tout, l'établissement accueillera 300 élèves répartis dans 13 classes, de la petite section au CM2. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a bien un prof devant chaque classe, explique la directrice.
Il y a un enseignant devant chaque élève, pas depuis longtemps, depuis hier après-midi. Donc, nous avons eu quelques sueurs froides. Mais j'ai mon équipe au complet, j'ai vu tout le monde. Tout le monde est prêt à accueillir les élèves ce matin.
Et depuis 7 heures, Philippe fait le tour des locaux, sa tasse de café à la main. Ce professeur de 65 ans, pour qui c'est la dernière rentrée, était le premier ce matin.
Très matinal, oui. C'est une habitude pour pouvoir tout préparer au niveau de la classe.
Et c'est votre combienième rentrée?
45e, je crois. C'est une carrière qui se termine, mais... c'est bien. Je me sens très léger, je me sens très détendu. Et c'est amusant de voir les collègues aussi qui sont d'une gentillesse. J'ai l'impression d'être un ancêtre. C'est très amusant.
Et je vois quelques parents hein, et leurs enfants commencer tout juste à s'approcher à l'autre bout de la rue. Ils ont plutôt le sourire aux lèvres.
Louise Salé en direct d'une école primaire du 17e arrondissement de Paris.
L'inflation maintenant, elle a légèrement reculé en août. Hein, 5,8% sur un an contre 6,1% au mois de juillet. Quand on regarde dans le détail, il y a des petites surprises.
Alors un ralentissement déjà qui s'explique en partie par la baisse du pétrole. Mais dans d'autres secteurs, eh bien, le compteur s'affole, à commencer par celui de l'alimentation. Plus 18% pour les pâtes, plus 17% pour les céréales. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Margot Fodéré, les prix augmentent plus vite chez les hard discounters que dans les grandes enseignes.
Oui, l'inflation atteint 8,66% en août dans les surfaces comme Aldi ou Lidl, contre 7,70% seulement dans les hypermarchés. Dans les catalogues de produits, cette hausse des prix est bien visible. Il faut parfois rajouter plusieurs dizaines de centimes sur certains articles. Une envolée des prix qui peut paraître étonnante. Ces enseignes sont censées proposer des produits à des prix ultra compétitifs, mais elles ont aussi moins de marge de manœuvre que les grandes surfaces pour faire face à la hausse des coûts, comme l'explique Thomas Graffanino, expert de la grande distribution chez Sia Partners.
Ce que vous avez chez les discounters, en fait, c'est un ensemble de coûts qui vont être au minimum. Ce qui fait que quand vous avez une inflation sur un produit, la capacité de ce discounter à l'absorber dans ses coûts, à ne pas le répercuter au consommateur, elle est amoindrie.
Même chose du côté des marques distributeurs, où les prix ont augmenté de 10,67%.
Comme il y a un intermédiaire entre le producteur et cette marque distributeur, qui est l'industriel qui va produire les produits, on va forcément avoir une négociation qui va être moins facile entre la marque distributeur et le producteur et donc du coup une capacité à absorber l'inflation qui est un petit peu moindre.
Enfin, c'est sur les premiers prix que la hausse est la plus importante, plus 13% au mois d'août.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1, on en parlait au début de ce journal, ce 1er septembre est un jour de rentrée des classes. C'est aussi le jour de l'entrée en vigueur de plusieurs mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le prix des carburants va encore baisser. La remise de l'État passe de 18 centimes à 30 centimes par litre.
L'actualité de ce jeudi, c'est également l'affaire Hassan Iqiyoussen. Toujours pas la moindre nouvelle de l'imam.
Il est toujours officiellement en fuite. Où est-il passé? Peut-être en Belgique, c'est l'hypothèse retenue par les autorités françaises. Mais son interpellation ne résoudra pas tout puisqu'il faut pouvoir le renvoyer au Maroc. Et c'est là que l'affaire se complique. Bonjour Thibault Hue.
Bonjour.
Vous êtes envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc. Le Royaume vient de suspendre le laissez-passer consulaire qui devait permettre son expulsion.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maroc avait espoir en donnant son feu vert d'apaiser ses relations tendues avec la France, surtout depuis que les obtentions des visas français ont été restreintes. Mais la cavale du prédicateur et sa forte médiatisation ont mis le feu aux poudres. Rabat opte finalement pour la prudence, demi-tour, avant que l'affaire ne s'emballe trop et devienne un sujet délicat de politique intérieure. Selon des sources proches du dossier ici au Maroc, on a eu peur que ce laissez-passer ne devienne une véritable humiliation, surtout parce que l'imam Hassan Iqiyoussen est né en France, y a vécu toute sa vie et n'est que très rarement retourné dans son pays d'origine.
Et Thibault, que pensent les Marocains de cette décision d'expulsion ?
Eh bien, la plupart soutiennent la décision de Rabat. J'ai pu discuter avec Bachir, par exemple, un restaurateur casablancais. Il est soulagé que le Maroc mette fin à la procédure.
Non, le Maroc, c'est pas une poubelle pour des choses comme ça. C'est un citoyen marocain et français. Il a vécu presque les trois quarts de sa vie en France, sa femme et tout ça. S'il a cet idéalisme vers les Juifs, c'est le problème de la France. C'est la France qui doit trancher cette affaire.
Mohamed, lui, voit encore plus loin. Selon lui, ce refus va faire jurisprudence et empêcher toute future tentative d'expulsion depuis la France vers le Maroc.
La France, elle veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais là-bas. Mais on ne peut pas, là. Parce que le Maroc aussi, si on veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais là-bas, donc ça va être vide aussi, non ? Il vaut mieux que chacun prend sa part de responsabilité. Peut-être en le réintroduisant et lui a donné une bonne formation, il va être un bon élément après, donc on ne sait pas.
Et alors, depuis ce retournement de situation, ces habitants de Casablanca s'intéressent à cette affaire qu'ils vont suivre de près, en attendant de savoir quand et surtout où Hassan Iqiyoussen sera interpellé, puis arrêté.
Thibault Hue, envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc.
Alors, c'est aussi la rentrée pour les ambassadeurs en ce jeudi 1er septembre. Elle se place déjà sous le signe de la fronde.
Emmanuel Macron prononcera ce matin à 11h le traditionnel discours d'ouverture de la conférence des ambassadeurs. L'accueil risque effectivement d'être assez frais. Les relations entre l'exécutif et les diplomates se sont tendus depuis la réforme de la haute fonction publique défendue par le président. Explication Arthur Delaborde.
Deux mois après un mouvement de grève rarissime, les fonctionnaires du Quai d'Orsay se structurent. Ils ont annoncé hier la création de l'Association française des diplomates de métier, intégrée notamment par deux anciens ministres des Affaires étrangères, Dominique de Villepin et Michel Barnier. Objectif, défendre le corps diplomatique tricolore face à la réforme supprimant ses deux grades les plus hauts, conseiller des Affaires étrangères et ministre plénipotentiaire, le président de cette association, Benjamin Weiss.
Cette réforme détruit la diplomatie de métier en remplaçant les diplomates professionnels par des personnes qui sans doute ont de très grande qualité, mais qui en fait occuperont des postes dans la diplomatie de manière intermittente, ce qui pour nous est un très grand danger pour la politique étrangère et pour le service public que constitue la diplomatie.
Et malgré ce malaise, Emmanuel Macron lui tient bon. Avec cette refonte, l'Élysée explique qu'il veut secouer des carrières présentées comme trop linéaires et puiser dans des profils plus variés qu'auparavant pour dynamiser la diplomatie française.
Arthur Delaborde, Emmanuel Macron qui présidera aujourd'hui un premier conseil de défense consacré à la crise de l'énergie et aux moyens de la surmonter.
Alors voilà des manœuvres militaire qui ne risque pas d'apaiser les tensions dans le contexte de la guerre en Ukraine. La Russie organise un exercice géant sur son sol avec des soldats chinois.
Vostok 2022, c'est le nom de code de ces manœuvres, des blindés par milliers, des avions par centaines et des militaires venus de plusieurs pays, dont la Chine. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
Plus de 50 000 militaires d'une dizaine de pays participent à partir d'aujourd'hui et pour une semaine aux exercices Vostok en Russie. Des militaires russes, chinois, indiens, syriens, mais aussi venus du Laos, du Nicaragua et de plusieurs pays d'Asie centrale vont se déployer sur une dizaine de théâtres d'opération. Plusieurs milliers de blindés, 140 avions et 60 navires de guerre sont à la manœuvre dans l'extrême-orient russe. Ces exercices qui ont lieu tous les 4 ans sont les premiers organisés depuis l'invasion de l'Ukraine. Tan Kefe est le porte-parole du ministère chinois de la Défense.
La participation de la Chine à cet exercice vise à approfondir la coopération avec les armées des autres pays présents. Elle vise à améliorer le niveau de coordination stratégique et à renforcer la capacité à répondre aux menaces sur la sécurité.
Si ces pays sont tous des alliés de la Russie, ce n'est pas toujours le cas avec la Chine, notamment l'Inde, qui est à couteau tiré avec Pékin en raison des conflits frontaliers dans l'Himalaya, une zone sous très haute tension où l'Inde a prévu d'organiser des manœuvres militaires le mois prochain. Mais cette fois, ce sera avec les États-Unis, ce qui ne manquera pas de provoquer la colère de la Chine. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Enfin, on craignait de la voir partir, mais on la reverra au moins encore une fois à l'US Open de tennis. Qualification pour le troisième tour de l'américaine et future retraitée Serena Williams. Elle a quand même battu la numéro 2 mondiale, Annette Contavit.
On a presque envie de parier sur le fait qu'elle arrive en finale, Serena Williams, pour sa dernière. Merci beaucoup, Christophe Lamarre. C'était votre journal. Tiens, à propos de sport, ne manquez pas ce soir les décideurs du sport. Ce sera tous les jeudis cette saison de 20h à 20h30 dans Europe 1 Sport. Virginie Fulpin, Jacques Vendroux reçoivent une grande figure, un grand dirigeant du monde du sport. Et pour la première ce soir, ce sera Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Rien que cela. Voilà pour le rendez-vous. 8h11, dans un instant, l'invité de Sonia Mabrouk. Europe 1. Votre invitée, Sonia Mabrouk, est professeure de français, co-auteure de ces petits renoncements qui tuent aux éditions Plon.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Valogne.
Bonjour.
Merci de nous accorder cet entretien en exclusivité. Précisons que votre voix a été modifiée, que le nom sous lequel vous intervenez est un pseudonyme. Vous êtes à l'origine du livre « Ces petits renoncements qui tuent » aux éditions Plon, livre dans lequel vous témoignez de votre quotidien auprès de la journaliste Karine Azopardi, le quotidien d'un professeur de lettres passionné par son métier, par sa mission depuis 30 ans, mais qui voit l'entrisme islamiste gangréner l'école. On va s'y attarder longuement, mais tout d'abord, ce témoignage est anonyme pour des raisons évidentes de sécurité, mais est-ce que vous avez hésité? Certains, comme Didier Lemaire, professeur à Trappes, que nous avions ici même reçu, avaient alerté à visage découvert. Qu'est-ce qui vous a définitivement convaincu qu'il ne fallait pas révéler votre identité?
C'est une discussion qu'on a eue avec la journaliste Karine Azopardi. On en a longuement parlé et finalement on a tranché dans le sens de l'anonymat parce que écoutez, j'aspire à une certaine méconnaissance publique, à une certaine tranquillité. Je ne voulais pas me sentir en porte-à-faux par rapport à mon institution et puis par rapport à ma hiérarchie. Voilà, je ne voulais pas qu'on voit ça comme un acte déloyal et puis ça pouvait aller dans un sens comme dans un autre. Hein. Vous avez ce genre de publication. Et puis, je ne voudrais pas que les choses s'emballent dans un sens aussi comme dans un autre, de manière publique. Et puis, je n'ai pas envie de devenir une cible de qui que ce soit et d'être récupéré par qui que ce soit. Donc, j'ai préféré l'anonymat. Je peux concevoir qu'ensuite, on peut voir derrière tout ça quelque chose de l'ordre de sensationnaliste, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous avons opté pour la confidentialité.
Et on les comprend parfaitement. Alors, vous êtes professeur, comme on dit, dans une banlieue difficile de la région parisienne. Le fanatisme islamiste qui a mené à la décapitation de Samuel Paty, vous l'avez vu progresser, prospérer, s'enraciner dans notre école. Et il y a cette phrase saisissante, je voudrais qu'on démarre par cela, page 23. Samuel Paty, ça aurait pu être moi. Est-ce que vous vous imaginez, vous vous êtes imaginé le même sort en faisant votre travail, simplement votre travail?
Disons que cette phrase, mon cas personnel n'est pas très, très important. Quand je dis ça aurait pu être moi, ça aurait pu être un professeur lambda, parce que je sais que vous avez reçu David Dinota l'année dernière, dont j'ai lu le livre, qui m'a fait une très forte impression, qui est un livre absolument magistral. Qu'est-ce que décrit David Dinota? Il décrit le mécanisme, l'engrenage d'une tragédie. Donc, au sens antique, presque du terme, si vous voulez. Hein, quand je dis ça aurait pu être moi, je ne cherche pas à attirer la couverture vers moi, ce n'est pas du tout la question. C'est que n'importe qui aujourd'hui aurait pu terminer en fait divers tragique comme celui-là.
Quand vous citez le livre de David Dinota, c'est une enquête sur ce qui s'est passé, d'ailleurs au sein de l'académie, de la hiérarchie autour de l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous imaginez cette fois, parce que c'est la question que l'on se pose tous en vous écoutant, que la hiérarchie, l'académie, que toute l'éducation nationale soutiendrait aujourd'hui un professeur dans cette situation, ou alors le sursaut n'a pas encore eu lieu?
Écoutez, j'ose croire, précaution oratoire, j'ose croire que les instances académiques et surtout institutionnelles ont pris la mesure de la gravité.
Mais votre conviction profonde, quelle est-elle?
Je pense que maintenant, alors très honnêtement, et je pense que ça fait un effet d'électrochoc. Je pense que c'est un tournant. Il y aura un avant, un après. Et que maintenant, il y a certains tabous qui sont levés très clairement. Qu'on a des discussions très claires autour de cette problématique en salle des professeurs. Donc ma conviction profonde, c'est que je pense qu'on serait beaucoup, beaucoup plus prudent qu'on ne l'a été, parce que là, on a quand même fait preuve de légèreté, sinon de frivolité.
C'est intéressant, vous parlez de vos collègues, évidemment des professeurs, avant qu'on en vienne aux élèves. Il y a un enseignant qui vous dit, je crois que c'est quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, il vous dit « le vrai danger, c'est l'islamophobie ». Mais cet argument que vous avez sûrement entendu plusieurs fois, trop de fois, de quoi est-il le révélateur selon vous ?
Il est le révélateur d'une forme d'occultation, voire de dénégation, au sens psychanalytique du terme, du réel, tout simplement. C'est une réfutation du réel. Donc voilà, l'idéologie se pense plus forte que le réel, à mon sens. Voilà.
Ils sont nombreux, ces professeurs ?
Non, attention, c'est très très marginal. De même que je ne voudrais pas qu'on croie que je suis en train de parler d'une cinquième colonne islamiste qui sont en train de noyer l'éducation nationale. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. Donc ce qu'on dit simplement, c'est que c'est ce livre, c'est... Au quotidien, on constate comme ça un certain nombre d'anecdotes qui sont révélatrices d'un certain état d'esprit, d'une certaine ambiance.
Parlons-en, parce que justement, la journaliste Karine Azopardi, avec votre récit à travers votre quotidien, les décrit avec beaucoup de précision. Quelques jours après, là encore une fois, la décapitation de Samuel Paty, vous dissertez, Laurent Lavande, sur l'art de la caricature dans votre classe. Vous tentez d'expliquer finalement un héritage, une tradition française. Et puis, il y a un silence et cette remarque d'un élève. Samuel Paty ne méritait pas la mort. Mais il ne faut pas se moquer du prophète. Comment vous réagissez et comment réagit le reste de la classe ?
Comment ? Alors, c'est le 8 mai, si vous voulez. Donc, ça s'appelle une dénégation. Là aussi, donc, ce sont des jeunes gens qui sont en construction, puisque ce sont des adolescents, ils construisent leur identité, ils sont en recherche. Il faut être patient, il faut expliquer ce que c'est que le registre de la satire, ce que c'est que la caricature, ce genre de choses. Il faut faire un cours, en fait.
Mais on essaie de se mettre à votre place ce jour-là ou quelques jours après l'émotion qui nous a tous saisis, mais qui vous a saisi, vous, dans vos tripes, après la mort de votre collègue Samuel Paty, et qu'un élève vous dise cela. Comment vous ressortez d'une classe, vous qui avez cette mission vraiment, et vous croyez en votre travail, quand un élève vous dit ça ? Est-ce que vous dites, ça vaut le coup que je continue ?
Toujours. Je ne vous le cache pas, c'est éprouvant, non, c'est fatigant. C'est...
Physiquement, vous le racontez, hein ? Vous êtes en âge ce jour-là ?
Oui, il faut mouiller la chemise au propre comme au figuré. Il faut pas hésiter à déranger les élèves. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, on est aussi un petit peu. Bon, on entend souvent ce genre de remarques. Donc au bout d'un moment, on est rodé et on sait ce qu'il faut répondre. Vous voyez, quand on vous dit par exemple deux poids, deux mesures, on autorise des caricatures du prophète, mais on interdit Dieudonné de s'exprimer. Vous voyez, donc voilà, après, au bout d'un moment, on sait ce qu'il faut répondre aussi.
Oui, mais Laurent Valogne, vous le savez.
Oui.
Est-ce que les autres professeurs, alors, enseignants, parfois plus jeunes, savent comment se comporter face à ce genre de remarques ?
Il y a certainement aussi le fait qu'il y a un déficit de formation des collègues. Et je parlais tout à l'heure de prise de conscience, hein, d'électrochoc quand même. Il faut quand même rappeler que M. Blanquer, et je pense que le ministre actuel, M. Ndiaye, sont dans la continuité, a mis en place un plan de formation qui doit se déployer sur tout le territoire, de formation de toute la communauté éducative sur la laïcité et les valeurs de la République.
Alors c'est intéressant parce que vous parlez de laïcité dans votre livre, mais est-ce vraiment un problème de laïcité ? Certains disent que c'est un problème de culture et de civilisation qui s'entrechoquent. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la laïcité ici qui est en débat ? Vous, le professeur, vous, l'enseignant, qui l'éprouvez quasiment tous les jours, au quotidiennement.
On est dans une ère post-séculaire, donc vous voyez, mais ça touche pas simplement l'Occident, hein, donc ça touche aussi, pas l'Ouest, enfin ça touche aussi, vous voyez, la culture nord-américaine. Je l'aurais pas formulé de cette façon-là, je dirais simplement que, voilà, il y a quelque chose qui va vers l'effacement du processus de sécularisation.
Racontons, encore une fois, on va dérouler tout ce qui était écrit, puis après il y aura l'analyse, parce qu'il y a d'autres phrases très révélatrices dans ce livre. Vous racontez aussi l'habillement, tout simplement, des élèves, les jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses à porter l'abaya, c'est ce vêtement qui se porte au-dessus d'autres vêtements, et lorsqu'elles sortent du lycée, elles mettent une cagoule, parfois le voile, les gants, peut-être les trois, et vous ajoutez, moi je trouve cette phrase, et nos auditeurs vont trouver qu'elle est terrible, dévastatrice, nous nous y sommes habitués.
Oui, bah, il suffit d'aller dans certains quartiers de la banlieue parisienne pour voir que ce sont des choses qui se sont banalisées au quotidien. Donc, alors, dans la rue, voilà, c'est pas la, ça pose pas du tout un problème laïque, je veux dire. Donc, c'est pas
dans l'enceinte du
mais
lycée.
Dans l'enceinte scolaire, les tenues vestimentaires donc, sont problématiques, oui.
D'où la question sur le titre, justement. Ces petits renoncements qui tuent, renoncements, c'est une somme de recul, de peur, de crainte, peur d'être traité de raciste, d'être traité d'islamophobe. Est-ce qu'il y a aussi de la complaisance, parfois, consciente?
Alors, disons que moi, j'ai fait beaucoup d'établissements scolaires. Hein, donc, et ce que je veux dire, c'est que d'un établissement scolaire à l'autre, la direction, les chefs d'établissement ne vont pas réagir de la même façon. Et même à l'intérieur d'un établissement, la direction ou même les collègues, certains seront très opportunistes, plutôt attentistes ou même frileux, d'autres chefs d'établissement prendront leurs responsabilités, vous voyez. Donc ce qui manque, c'est donc une ligne directrice dans tout ça, en fait.
Vous décrivez aussi, Laurent Vallogne, une montée concomitante de l'antisémitisme avec des propos comme la Shoah business, une haine des juifs, en tous les cas les juifs pris pour cible comme étant les gagnants du système. Est-ce que vous avez encore des élèves français de confession juive dans vos classes?
Oui.
Donc la mixité pour vous, j'allais dire confessionnelle et aussi sociale, est encore d'actualité dans ce lycée de la banlieue parisienne?
Oui.
Il n'y a pas eu d'exode, il n'y a pas eu de départ?
Non, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai constaté.
Il y a aussi la contestation des cours, la liste est longue, des incidents quand vous soumettez un texte, un pamphlet de Voltaire, lorsque vous projetez aussi la gravure de Charles-Nicolas Cochin. On sait que tout en haut, au-dessus, il y a au sommet, il y a la vérité, et un élève vous rétorque. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus?
Non, ce qu'il y a au-dessus, c'est la théologie, c'est Dieu.
C'est Dieu. Donc Dieu au-dessus de tout.
Bien sûr, Dieu est au-dessus de tout.
Les mais... valeurs religieuses devant les valeurs, ou en tous les cas, ce qu'on partage dans la République.
C'est pour ça que je formule les termes, les choses en termes de désécularisation. Vous voyez, plutôt qu'en termes de conflit de civilisation ou de culture. Donc, c'est un problème de valeur, tout simplement.
Quand c'est un livre aussi qui dénonce, on va voir l'analyse avec Karine Azopardi. Il y a eu d'autres ouvrages. Ça fait 30 ans qu'il y a ces alarmes qui sont tirées. Il y a aussi, je pense, le rapport de l'ancien inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Pierre Robin. Est-ce que vous avez espoir que les choses changent?
Alors, il y a 20 ans, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Vous avez cité Jean-Pierre Robin, mais Jean-Pierre Robin, donc inspecteur à la retraite, a été contacté. Il a refait un rapport récemment, et c'est ça d'ailleurs qui a déclenché, vous voyez, cette formation, ce dispositif de formation nationale, donc des maîtres sur la laïcité et sur les valeurs de la République. Là, il y a un livre qui vient de sortir aussi de Yanis Roder, qui fait les mêmes constats que le nôtre. Donc, vous voyez, les choses commencent à être dites, et il me semble qu'il y a quand même un début de prise de conscience.
Elles commencent à être dites. On est dans le constat, mais l'action, la réaction, le sursaut?
Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait une inaction, parce que, vous voyez, par exemple, en 2004, donc, il y a une loi, moi j'enseignais jusqu'en 2004, hein, pendant 14 ans, sur le voile, c'était compliqué, il y avait des collègues, moi, avec des classes que j'avais en commun avec d'autres collègues, qui acceptaient le voile, moi je ne l'acceptais pas, donc vous voyez, donc en 2004, il y a une loi qui a été faite, qui est très claire. Il y a des outils. Rappelons quand même que le ministre de François Hollande, que Vincent Peillon, donc, avait proposé ce qui s'appelait la charte de la laïcité. Vous voyez, donc il y a des outils qui sont proposés. Donc utilisons-les.
Vous y croyez toujours? Malgré ce qu'on peut lire, parce que je précise à nos auditeurs, et avec le récit rapporté par Karine Azopardi, vous vivez des moments difficiles. Vous êtes chez vous, après le terrible choc de Samuel Paty, vous connaissez des moments extrêmement noirs.
Oui, parce qu'il y a eu un effet de sidération. Parce que c'est quelque chose qui a affecté beaucoup de collègues aussi, pas simplement moi. Mais moi, je persiste à dire que, si vous voulez, il y a une majorité de musulmans en France qui pratiquent leur foi. Le musulman lambda, il pratique sa foi tranquillement dans son coin. Et ces gens-là sont pris en otage, si vous préférez, par des salafistes. Il faut être clairement, donc il faut dire les choses clairement.
C'est un débat qui est piégé. Vous craignez, d'ailleurs c'est peut-être pour ça l'une des raisons de l'anonymat, c'est de ne pas être instrumentalisé par les uns, par les autres.
Oui, on est sur une ligne de crête. On est sur la ligne de crête d'un côté, si vous voulez, où il faut dénoncer ce que le philosophe Abdelwahab Medhab appelait la maladie de l'islam, hein, qui est un livre qui a été écrit il y a quand même plus de 10 ans, ou un philosophe comme Abdelnour Pidart aujourd'hui, qui est très impliqué sur ces questions. Donc il faut dénoncer ça. Et vous voyez, et d'un autre côté, ne pas être récupéré par l'extrême droite qui justement va faire litière de toutes ces questions.
Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui?
Ouais, moi, j'insiste, je fais le plus beau métier du monde. Je suis très heureux dans ma salle de classe. avec mes élèves quand je vois qu'il y a des étincelles qui s'allument quand on étudie un poème de Rimbaud ou un texte de La Fontaine. C'est un vrai bonheur. On se dit, bon ben voilà, on a réussi son coup.
Donc malgré les difficultés, les renoncements, il y a toujours dans ce tableau noir de la couleur.
Mais bien sûr.
Et ben c'est l'espoir qui prime. Merci beaucoup. Laurent Vallon, alors nos auditeurs avec la caméra ne verront pas votre visage, ce n'est pas votre nom, vous ne serez pas reconnu, mais on sait que c'est un professeur qui aime et qui aimera toujours sa mission et son métier. Merci encore et bonne journée à vous.
Également, merci.
Merci Sonia Mabrouk, merci Laurent Vallon, et je précise que cet entretien a été enregistré hier après-midi. Je redonne le titre du livre de Laurent Vallon, « Ces petits renoncements qui tuent », c'est paru aux éditions Plon. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot va revenir sur l'expulsion avortée de l'imam Iqiyoussen. Et Géraldine Vosner fait son arrivée sur Europe 1, les signatures Europe 1 à 8h37.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 8h30, l'essentiel de l'actualité, Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, quel emploi du temps, quel copain dans la classe, quel professeur. Les 12 millions d'élèves découvrent les réponses à toutes ces questions. C'est la rentrée dans les établissements scolaires et avec elle le risque d'un manque de professeurs dans certaines classes. Santé publique France profite en tout cas de cette rentrée pour lancer une campagne de sensibilisation à l'activité physique pour les adolescents. Une remise à la pompe doublée à partir d'aujourd'hui de 18 à 30 centimes par litre. C'est l'un des changements qui entre en vigueur ce 1er septembre. Autre mesure, le stationnement qui devient payant à Paris pour les usagers de deux roues thermiques. Et puis dans le courant du mois, le plafond journalier des tickets restaurant doit passer de 19 à 25 euros. Léger redémarrage du marché automobile français en août, plus 3,79% de voitures neuves vendus. Le niveau reste toutefois toujours en dessous de l'avant-Covid. L'enquête visant Richard Berry est classée sans suite par le parquet de Paris pour cause de prescription. L'acteur est accusé d'inceste par sa fille. Visite sous haute tension vers la centrale de Zaporijjia. Une équipe de 14 personnes de l'Agence internationale pour l'énergie atomique est attendue aujourd'hui à la centrale nucléaire ukrainienne. Kiev accuse Moscou d'être à l'origine de frappes d'artillerie avant l'arrivée des experts. La Russie, elle accuse l'Ukraine d'avoir envoyé une équipe de saboteurs près de la centrale. L'AIEA dit maintenir sa visite. Il était très attendu. L'ONU a publié son rapport sur la région chinoise du Xinjiang. Il évoque de possibles crimes contre l'humanité et fait état de preuves crédibles de tortures et de violences sexuelles à l'égard de la minorité ouïghour. L'ONU appelle la communauté internationale à agir. Et puis en Ligue 1, le PSG a réagi après avoir été malmené par Toulouse. Score final 3-0. Paris en tête du classement avec Lens et Marseille également vainqueurs hier soir.
Merci Clotilde Dumay. Le temps maintenant, Anissa Dadi, je me tourne vers vous, rentrez plutôt ensoleillée et douce.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Et oui, tout ça pour dire que la rentrée se prête bien à un petit bain dans la piscine.
Ah bah ça serait bien, là je pense qu'il y a quelques enfants qui vont regretter d'entendre parler de piscine effectivement. Bon, c'est vrai que même si de temps en temps le soleil est masqué, c'est vraiment le beau temps qui domine aujourd'hui. Alors sur le quart nord-ouest, c'est l'exception. Hein. C'est vrai que si vous nous écoutez en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Basse-Normandie et jusqu'au Poitou. Là, c'est un petit peu plus humide chez vous. Les averses vont s'enchaîner avec même quelques coups de tonnerre cet après-midi. On a quelques averses du côté de la Corse aussi, sur les Alpes du Sud. Et puis cet après-midi, des averses qui vont se développer sur les Pyrénées, mais partout ailleurs, on a un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec même un peu plus d'éclaircies. Vous parliez de douceur, Dimitri, c'est vraiment le cas, il fait très doux. Donc habillez les enfants légers. Enfin, quoi que là, je pense qu'à 8h33, s'ils ne sont pas habillés, il y a un petit souci.
Oui, c'est un peu en retard, oui, sans doute.
22 à Cherbourg, 24 à La Rochelle, 26 à Metz, 27 à Lille, 29 à Paris, Bastia, 30 à Lyon, 32 à Marseille. Profitez-en, ça va nettement se gâter ce week-end. On a beaucoup de pluie qui arrive sur le sud-est.
Voilà, préparez les kawaii, même si ce n'est pas le moment pour les mettre. Merci, tu sens sur le sens du timing. Ouais. Merci Anissa Dadi. 8h34 sur Europe 1.
Europe Matin.
Dimitri Pavlenko.
Bonjour Emmanuel Ducrot.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous.
Alors parfois, la réalité dépasse la fiction dans le registre de l'absurde et du navrant. Illustration ces dernières heures avec l'histoire de l'imam qui s'est fait la belle.
Oui, la saga de l'imam Iqiyoussen en fait partie, de ces moments où les événements semblent cinématographiques tant ils concentrent les absurdités. Le prédicateur, homophobe, antisémite, misogyne, devait être cueilli chez lui dans le nord de la France et expulsé mardi. Après une décision très attendue, finale de la justice administrative. administrative. Mais il a fait ce qu'on appelle une Carlos Ghosn. Il s'est enfui au nez à la barbe des hommes de la Direction centrale des renseignements territoriaux qui devaient le garder à l'œil. Envolé l'imam. On ne sait pas où il est, on ne sait pas exactement quand il a quitté son domicile, peut-être dimanche, ni comment il est parti, sans doute caché dans un coffre de voiture. À l'heure de la surveillance généralisée, de l'IA, de la triangulation, le fichier S le plus célèbre du moment qui joue les filles de l'air, ça laisse assez pantois.
C'est vrai que c'est rocambolesque, c'est sûr, mais est-ce que c'est absurde ?
Eh oui, c'est absurde parce que l'imam Iquissem, depuis le 28 juillet 2022, il est au centre de l'attention médiatique. Il est devenu, depuis que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé son expulsion, un symbole, celui de la volonté de l'exécutif de frapper fort contre les dérives islamistes. Il y avait un gars qu'il ne fallait pas laisser filer et il s'est carapaté.
Ouais, l'effet boomerang ne s'est pas fait attendre, il est dévastateur.
Et oui, le retour est très violent. Gérald Darmanin était en passe de réaliser un joli coup médiatique et politique après une série de rebondissements de décisions administratives contradictoires. Il s'est glorifié un peu vite, il se retrouve maintenant le nez dans la poussière. Le résumé des faits est impitoyable. On n'a pas perdu l'imam à la suite d'une minute d'inattention. Non, il a simplement laissé son téléphone derrière lui et pendant plusieurs jours, personne ne s'est rendu compte qu'il était parti. La suite du feuilleton va être cruelle pour Gérald Darmanin. Si on met maintenant la main sur l'imam, il va falloir des jours de rétention administrative, de tractations diplomatiques avant de savoir ce qu'on va faire de lui. Le Maroc a suspendu le laissez-passer consulaire qui devait permettre son retour. Ou comment transformer une affaire rondement menée qui avait triompher des obstacles en futur chemin de croix médiatique.
Alors l'absurde de cette affaire se loge aussi dans l'attitude de l'opposition, Emmanuel.
Eh bien oui, notamment celle de la France insoumise qui a défendu bec et ongle cet homme aux propos indéfendables. On a assisté à des contorsions dignes du cirque du soleil. Certains sont allés jusqu'à expliquer qu'on ne pouvait décemment pas imposer au Maroc un tel personnage et qu'il valait mieux le garder en France pour ne pas nuire à d'autres. On croit quand même un peu rêver. Mais finalement les insoumis sont pris à leur propre piège. Ils martèlent à longueur de journée que les forces de sont bien trop durs, iniques, cruels. L'islamiste aux propos violents qu'ils ont entrepris de défendre d'une expulsion affreuse n'a filé à l'anglaise que parce que le ministère de l'Intérieur s'est montré d'une candeur et d'une naïveté surréaliste. Pour un peu, les insoumis devraient applaudir Gérald Darmanin pour cette toute nouvelle douceur.
Effectivement, c'est absurde. Je cherchais le terme et vous avez totalement raison. Merci Emmanuel Ducourtien. Restez avec nous. On va accueillir Géraldine Vosner sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe Matin.
Eh oui, un jour une plume à 8h37 sur Europe 1. Bonjour Géraldine Vosner.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors décidément, on aura tout vu. Alors c'est un sujet qui plaisait beaucoup à Emmanuel. Vous le lui avez piqué, mais comme vous vous entendez bien, ça passe. L'ONG Greenpeace pourrait-elle un jour être condamnée pour écocide ? Je repose la question. L'ONG Greenpeace pourrait-elle être condamnée pour écocide ?
Mais on peut sincèrement se le demander, Dimitri, en lisant l'interview publiée cette semaine en Allemagne du responsable énergie de Greenpeace. Il s'appelle Carsten Schmitt. Alors vous savez que ces sujets me passionnent. Je me suis jetée dessus, encore suffocante des chaleurs de l'été, noircie de la fumée des incendies. J'espérais trouver la lumière, un chemin tracé dans notre lutte contre le réchauffement climatique. Et patatras, ces mots m'ont cloué à terre. Il est amer, disait-il, mais essentiel que les centrales à charbon déjà arrêtées en Allemagne soient remises en service. Je répète, pour les distraits, charbon essentiel, Greenpeace.
Oui, je crois saisir votre désarroi.
Mais pas seulement le mien. Hein. Greenpeace, les chevaliers du climat qui combattent les baleiniers, qui s'accrochent à des grues sur les centrales nucléaires au nom de la planète. Greenpeace vient nous expliquer que c'est malheureux, mais bon, il n'y a pas le choix. Comme l'Allemagne s'est rendue dépendante du gaz russe en sortant du nucléaire, elle doit rouvrir une vingtaine de centrales à charbon, les pires, les plus polluantes. Tout ce qu'il demande, lui, Monsieur Schmitt, c'est qu'on se calme un peu sur la lignite qui est encore plus dégueulasse que la houille, et surtout qu'on achève de fermer les centrales nucléaires. Vous savez qu'il en reste 3 outre-Rhin contre 17 il y a 10 ans. Bref, l'ONG a entraîné le pays dans le mur et maintenant elle fort.
Vous exagérez un peu quand même, Géraldine, parce que c'est pas Greenpeace qui fait la politique énergétique allemande.
Bon, elle l'a plus que fortement inspirée. Dès le début des années 2000, l'Energiewende, cette transition énergétique allemande qu'on nous vante depuis des années, est calquée sur les croyances et les obsessions de Greenpeace. Obsession contre le nucléaire qui est perçu comme l'ennemi de la décroissance puisqu'il offre une énergie abondante, pas chère. Croyance que les énergies renouvelables pourront le remplacer. Je dis croyance parce que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On ne sait pas stocker l'énergie et toujours le développement des renouvelables est venu avec du gaz. La vérité, c'est qu'en Allemagne, on a plus que doublé les capacités renouvelables. C'est vrai, ça a coûté 520 milliards. Wow. Mais à côté, on a fermé aucune centrale thermique, on les a simplement débranchées et on en a construit une nouvelle. L'Allemagne aujourd'hui, c'est une centaine de centrales au gaz, il reste 60 centrales à charbon. Pourquoi ? Parce qu'au moment des pics de consommation, les soirs d'hiver, sans soleil, sans vent, il faut pouvoir appeler de la puissance. Aujourd'hui, l'électricité allemande repose encore à 43% sur des fossiles. En France, c'est moins de 7%.
Donc grâce au nucléaire, justement, que combat Greenpeace ?
C'est là qu'on plonge en plein paradoxe. Le modèle que défend l'ONG rend nécessairement dépendant à une ressource fossile. Et quand il consiste à remplacer le nucléaire qui n'émet que 6 grammes de CO2 par kilowattheure par des fossiles qui en émettent 80 à 150 fois plus, c'est climaticide. Et de la même façon que Greenpeace a traîné l'État devant le tribunal avec l'affaire du siècle, rappelez-vous, et l'a fait condamner pour inaction climatique, la jurisprudence pourrait bien s'appliquer à elle demain, qui place le dogme antinucléaire avant le climat, la peur d'une catastrophe hypothétique avant les victimes concrète du réchauffement, de la pollution, c'est la définition même du fanatisme. Et pour bien vous représenter, Dimitri, la dernière centrale à charbon ouverte en 2020 en Allemagne émet à elle seule plus que tout le transport aérien domestique en France. On a calculé que...
C'est
énorme. On a calculé que si l'Allemagne, au lieu de fermer ses centrales nucléaires, les avait gardées pour sortir du charbon, elle aurait économisé 60 millions de tonnes de CO2 par an. C'est plus que les émissions du Portugal, un pays entier.
Ah ben, et donc l'Allemagne promet que c'est transitoire et qu'elle sortira du charbon en 2038.
Oui, les religions aussi vous promettent des rivières de miel. Je demande à voir. En cherchant une morale à tout cela, j'ai pensé à Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Autrement dit, il pleure Dieu quand il voit leurs bêtises, leur aveuglement, car il n'y a pas de quoi rire. La pollution au charbon, elle tue chaque année 23 000 personnes en Europe.
Merci beaucoup Géraldine Vosner. Waouh, quand même, ça décoiffe. 8h41 sur Europe 1. Dans un instant, le club de la presse. Je vous dis à la semaine prochaine, pardon.
Quelle impoli. À la semaine prochaine.
Et Emmanuel, on se retrouve.
Je vous dis à lundi.
À lundi. Dans un instant, le club de la presse. La rentrée scolaire, la rentrée politique, cette affaire. Rick Youssen qui défraie la chronique. Passée en revue par Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et David Revaud d'Allonne du journal du dimanche.
Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Il est 9h moins le quart sur Europe 1, le club de la presse. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles avec nous ce matin. Bonjour Charlotte.
Bonjour Dimitri.
Et David Revaud d'Allonne du journal du dimanche. Bonjour David.
Bonjour Dimitri.
Bonjour à tous les deux. C'est donc la rentrée scolaire en ce jeudi 1er septembre pour un peu plus de 12,5 millions d'élèves et d'apprentis. 1 200 000 personnels, ça en fait du monde, sans compter les parents. On va rejoindre tout de suite Louise Salé, notre reporter Europe 1. Bonjour Louise.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes devant une école dans le 17e arrondissement de Paris, parents et enfants justement. Et ça y est, ils sont séparés à 9h moins le quart.
Oui, là les enfants sont passés derrière la grande grille bleue, ils sont dans la cour. Il y a quelques minutes, ils étaient regroupés avec leurs parents devant les fameuses listes des noms d'élèves et chacun a découvert qui et dans quelle classe. Il y a eu quelques surprises, mais dans l'ensemble, c'est plutôt des soulagements et beaucoup de cris de joie. Les portes sont ouvertes depuis 8h20, mais des parents prolongent un peu les retrouvailles. On se raconte leurs vacances. Tout ça, je vous cache pas, ça fait un sacré brouhaha. L'établissement devant lequel je me trouve accueille 300 élèves répartis dans 13 classes de la petite section au CM2. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'il y a bien un professeur devant chaque élève.
Eh bien, tant mieux pour cette école. Merci à vous, Louise Salé, qu'on retrouvera en direct aussi dans le journal de 9h. Charlotte Dornelas, la dernière rentrée scolaire, c'était il y a longtemps pour vous ?
Oui, il y a quelques années, c'est très désagréable comme question.
C'était il y a quelques années, mais c'est marrant parce que... Vous avez peur qu'on estime votre âge, c'est ça ?
Mais quand je l'entends dire, on regarde sur les listes, dans quelle classe on est, est-ce qu'on est avec ses copines, est-ce qu'on a la bonne...
C'est sympa et stressant, les rentrées.
Est-ce qu'on a la bonne instit et tout ? J'ai moi-même un nœud dans le ventre, là, en y repensant.
Justement, je vous annonce que demain matin, Europe 1 passe en édition spéciale, d'une certaine manière, grand thème autour de l'école. On va s'intéresser à l'apprentissage, parce que ça fait partie aussi des crises cachées à l'école, la crise de l'apprentissage. Pourquoi l'école de France a tant de mal aujourd'hui à susciter la curiosité des élèves ? Ça fait partie des grands sujets sujet. On en sera avec Stanislas Dehaene, c'est un grand chercheur, un spécialiste du cerveau. Il sera demain matin avec nous à 7h. Mais pour l'heure, penchons-nous sur les sujets du jour. La rentrée politique notamment. Le gouvernement a passé la journée d'hier en séminaire, séquence un peu façon team building, comme on dit en entreprise. On resserre les liens, mais aussi les boulons. Un cadrage de l'agenda des prochains mois. Il a beaucoup été question d'énergie, vous vous en doutez. Cadrage, recadrage collectif également. Il y a ce mot assez délicieux d'un ministre dans Le Figaro ce matin, David Revaud-Allonne, je vous le cite. Ce ministre nous dit au gouvernement, en ce moment, tout le monde est en profession libérale. Sous-entendu, chacun à son compte. Bruno Le Maire, qui s'oppose au super-profit, mettant d'ailleurs la première ministre au défi, l'air de rien. Clément Beaune, en solo sur les jets privés. Alors a-t-il été question de cette affaire IQ-SEN aussi, gros ratage pour les forces de l'ordre, mis en échec par un imam. Mais qu'est-ce qui s'est passé, David Revaud-Allonne ? Tout le monde se pose la question, là. Hein.
Il s'est passé qu'en quelques heures ou en quelques minutes, ce qui était une victoire juridique, puisque le Conseil d'État avait finalement validé la décision et l'action du ministre Darmanin en matière d'expulsion. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur était lui-même sorti dans la cour de la place Beauvau pour annoncer à grand renfort de tambours et trompettes cette victoire. Eh bien, patatras, cette victoire s'est transformée en pataquès, puisque effectivement, il y a eu, semble-t-il, un défaut de surveillance de cet imam. On se demande pourquoi, d'ailleurs, ouais. il a pu prendre la poudre d'escampette, semble-t-il, en Belgique, d'après les déclarations des autorités. Et on se demande vraiment ce qui s'est passé.
Apparemment, son téléphone bornait depuis son domicile du nord de la France. Seulement, l'imam n'était pas avec le téléphone.
Voilà, il semble que l'imam ait abandonné son téléphone depuis plusieurs jours. Donc, ça pose une vraie question sur la surveillance, sur un défaut de surveillance, puisque si le ministre avait placé l'enjeu politique à ce niveau, il avait choisi de faire de ce cas un symbole, puisqu'on sait que la droite et l'extrême droite accusent le gouvernement d'être totalement incapable en matière d'expulsion en général. Je parle même pas là des cas de séparatisme, d'imams prêchant la haine des juifs, la discrimination des femmes, etc.
Ce qui est un peu le cas de l'imam IQ SEN quand même.
Bien sûr, mais on peut
ces déclarations.
Absolument, puisque le Conseil d'État d'ailleurs a validé ces deux éléments, non pas le séparatisme, non pas le complotisme, non pas la défense des attentats, mais c'est au motif de l'antisémitisme et de la discrimination des femmes. Mais je veux dire, c'est un débat qui dépasse largement le séparatisme, qui touche les obligations de quitter le territoire français. Puisqu'on voit que, au-delà des imams prêchant la haine, on sait que très peu d'OQTF, comme on les appelle en langage administratif, sont appliqués. Oui. Et aussi et surtout parce que les pays concernés refusent de donner des laissez-passer consulaires. Et c'est précisément ce qui s'est passé, puisque le Maroc est revenu sur sa décision.
Alors, juste, on a une OQTF-ologue dans le studio, si je puis me permettre, Charlotte Dornel. Vous connaissez très bien le sujet, plaisanterie mise à part. Alors, il y a la dimension politique. Ce coup dur pour Gérald Darmanin, l'homme fort, celui qui se veut l'homme fort du pôle régalien du gouvernement, qui devait faire oublier le Stade de France. Et voilà que finalement, il s'y trouve renvoyé. Et puis, il y a la question, on va dire, strictement policière. Parce que on peut se dire aussi que l'imam IQ SEN, finalement, qu'il y ait eu défaut de surveillance, qu'il soit parti en Belgique sans qu'on l'ait vu, l'homme représentait-il une menace immédiate pour la sécurité nationale aussi? Est-ce que les policiers doivent aller là où le ministre leur dit d'aller?
Mais non, évidemment qu'il n'y avait pas une menace directe, parce que sinon, évidemment, la décision aurait été prise dans l'urgence absolue, ce qui n'était pas le cas. Il y avait une décision d'urgence, et c'est le référé de l'avocate de l'imam qui, lui, était un référé d'urgence avant la décision du Conseil d'État, en l'occurrence. Mais simplement, moi, ce que je vois dans cette histoire, honnêtement, pour en effet travailler pas mal sur le sujet, quand le Conseil d'État a validé la décision du ministre, je me suis dit, c'est quand même gonflé, parce que évidemment, il y a une telle volonté de Gérald Darmanin et une telle implication du ministre de l'Intérieur lui-même dans cette histoire que le Conseil d'État, on se rend bien compte que le droit est interprété d'une manière ou de l'autre selon la situation, là en l'occurrence politique et médiatique, ça n'arrive jamais. Vous le disiez vous-même, les OQTF ne sont pas respectés. Pourquoi ? Parce que l'État ne fait jamais appel devant le Conseil d'État pour une personne lambda, on va dire, qui est sommée de quitter le territoire français. Et évidemment, quand vous dites à une personne qui est en situation irrégulière, ce qui n'est plus un délit, donc qui est interpellé à l'occasion d'un autre délit...
Depuis 2011, c'est un délit.
Ça n'est plus un délit. Donc vous ne pouvez pas être expulsé pour le simple fait d'être présent de manière irrégulière sur le territoire français. Donc à l'occasion de la commission d'un autre délit, on vous dit, vous avez 30 jours, dans la plupart des cas, vous avez 30 jours pour quitter le territoire français. On met en CRA de manière anecdotique, en centre de rétention de manière anecdotique. Or, pendant ces 30 jours, vous parlez à n'importe quel policier qui a déjà eu affaire à ça, il vous dit pendant les 30 jours, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah le gars disparaît.
en fait. Et au bout de 30 jours, personne ne sait où il est. Et donc, ils accumulent les OQTF au fil des années.
Donc, rien d'exceptionnel dans le cadre
exactement.
De l'affaire
donc, de Gérald Darmanin a voulu en faire un symbole. Moi, quand j'ai vu la décision du Conseil d'État, évidemment, j'étais contente. Hein, je ne vais pas vous dire que je regrettais que le Conseil d'État valide l'expulsion de cet homme. Et je me suis dit, alors tout le monde va croire que c'est normal. On a décidé qu'il allait être éloigné et en fait c'est normal qu'il le soit, mais dans les faits, ce qui se passe aujourd'hui avec l'imam est beaucoup plus ce qui se passe dans la réalité avec tous les autres. Donc Gérald Darmanin a voulu en faire un symbole, je suis désolée pour lui, c'est pas le symbole qu'il attendait probablement, mais en effet c'est un symbole révélateur aujourd'hui beaucoup plus qu'hier.
C'est juste deux petits points, il n'y a pas que le juridique dans cette affaire tout de même, il n'y a pas que la décision du Conseil d'État. D'abord, il y a les ressources de la force publique allouées, c'est-à-dire que si on veut expulser tous les gens qui sont expulsables, il faut utiliser des milliers de policiers.
Ah oui, non seulement 6 policiers par personne à surveiller.
C'est non seulement la police de l'air des frontières, mais quasiment l'ensemble de la sécurité publique qu'il faudrait déployer. Donc c'est absolument impossible matériellement. Et puis j'en reviens à mon point sur les laissez-passer consulaires. Depuis 10 ans, à chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur s'installe à Beauvau, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la tournée de tous les pays concernés. Alors ça dépend un peu des pays selon les périodes. Je me souviens que...
Essentiellement les pays du Maghreb.
Oui, mais Gérard Collomb, par exemple, avait fait la Géorgie et l'Albanie, parce qu'il y avait beaucoup de demandeurs d'asile dont l'asile n'était pas accordé et qui étaient expulsables. Et donc, il y avait beaucoup de problèmes avec ces pays, mais bien sûr des pays du Maghreb, des pays d'Afrique noire, etc. Et à chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur arrive, il s'installe et dit « Vous allez voir, moi je vais resserrer les boulons et je vais faire appliquer les OQTF », il fait la tournée des pays et il s'avère qu'à l'arrivée, c'est vrai que cet exemple-là est absolument emblématique parce que en réalité les OQTF, je crois que de mémoire, il y en a moins de 10 000 qui sont appliqués chaque année et ça reste sur une tendance.
6% je crois en l'année dernière.
J'ai quand même le sentiment que ceux et celles, pour la citer, Marine Le Pen qui explique que si jamais elle arrive au pouvoir, elle fera appliquer les OQTF, j'ai bien peur qu'elle soit confrontée exactement au même problème, et c'est-à-dire ces deux problèmes, le refus des pays de recevoir leurs propres ressortissants et surtout les moyens de la force publique.
Alors juste, on va se pencher justement sur le cas de la suspension par le Maroc de ce laissez-passer consulaire. On déduit de cette suspension que le laissez-passer consulaire avait été accordé par Rabat du bout des doigts, du bout des lèvres, et que finalement, le risque politique s'est aussi déplacé au Maroc. Alors je vous propose de réentendre ce petit micro-trottoir réalisé par notre reporter Thibaut Hu dans les rues de Casablanca, où l'affaire Ikyusen commence à faire parler. Écoutez.
Non, le Maroc, c'est pas une poubelle pour des choses comme ça. C'est un citoyen marocain et français. Il a vécu presque les trois quarts de sa vie en France, sa femme et tout ça. S'il a cet idéalisme vers les Juifs, c'est le problème de la France. C'est la France qui doit trancher cette affaire.
La France, elle veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais là-bas. Mais on ne peut pas, là. Parce que le Maroc aussi, si on veut se débarrasser de tout ce qui est mauvais là-bas, donc ça va être vide aussi, non ? Il vaut mieux que chacun prenne sa part de responsabilité. Peut-être en le réintroduisant et lui a donné une bonne formation, il va être un bon élément après, donc on ne sait pas.
Voilà, alors quelle formation pour l'imam Ikyusen afin qu'il devienne un bon élément ?
Serpent qui se mord la queue, le formateur qui est formé.
C'est ça. Il y a quand même cette expression, le Maroc n'est pas la poubelle de la France. Voilà comment c'est ressenti là-bas aussi.
J'ai envie de dire miroir, quoi. C'est-à-dire que la France n'est pas non plus destinée à être la poubelle. C'est marrant parce que ça me rappelle, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, c'est un homme, alors je crois que c'était un homme d'origine algérienne cette fois-ci, qui sortait de prison et qui dit ça à Éric Zemmour dans un entretien, dans la rue, quoi. Et il lui avait dit « Oui, mais vous voulez expulser les Algériens qui sont en France, mais l'Algérie, c'est pas une poubelle. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que ces gens-là, d'abord, ne sont considérés, en l'occurrence, par leurs compatriotes initiaux, comme des déchets, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, quand même, une poubelle. Et, en fait, la question qui se pose... Moi, je les comprends parfaitement, les Marocains qu'on vient d'entendre. Ils ont raison. Je vois pas. Moi, je suis marocaine. Là, demain, on me dit, alors, vous allez récupérer l'imam machin, vous avez vu les propos qu'il a tenus. De la même manière que moi, française, j'ai pas très envie qu'il continue à vivre dans mon pays, qui, en effet, l'a vu naître, mais qu'il n'a jamais vu être aimé de lui. J'ai pas envie non plus de récupérer cet imam-là. Simplement, c'est évidemment un rapport de force entre les pays. C'est la question aussi à la fois de la binationalité et du voyage. Donc je comprends ces Marocains, mais moi je suis française, je défends mes intérêts en l'occurrence. Et mon intérêt premier et celui de mon pays, c'est que cet imam n'y vive pas.
Ouais. Voilà. Quelle est la toile de fond justement entre la France et le Maroc, David Revaud-Allonne ?
On a plusieurs explications possibles.
On a
cette affaire des visas qui remonte à l'année dernière où la France avait réduit le robinet des visas à l'endroit des trois pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Mais bon, on ne voit pas pourquoi ce laissez-passer consulaire qui avait été accordé au 1er août serait d'un coup suspendu puisque c'est une VFR, cette affaire.
Alors, il est valable 30 jours. Hein, non,
60 jours, je crois.
60 jours.
60 jours.
Donc, jusqu'au 1er octobre.
Donc, voilà, on avait encore un mois. Donc, le Maroc a coupé court. Il y a peut-être cette hypothèse diplomatique. On sait que c'est compliqué entre le Maroc et l'Algérie. Et la visite du président Macron en Algérie a peut-être agacé...
Rendu jaloux les Marocains
C'est possible. On sait que c'est quand même très, très, très sensible comme question. Puis, il y a tout simplement la question de la politique marocaine en matière de lutte contre l'islamisme. On sait que ça ne rigole absolument pas, que les services de renseignement marocains sont quand même... Il y a eu quand même des attentats assez meurtriers là-bas, qui ont frappé les esprits. On sait que le pouvoir marocain ne souffre guère de dérives à ce niveau-là, que c'est extrêmement bien tenu. Donc là, ça en rejoint effectivement ce qui a été dit par les Marocains que vous interrogiez à Rabat ou Casablanca, je ne sais plus, dans le reportage.
Merci à tous les deux. David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche et Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Merci à tous les deux. À la semaine prochaine. Binôme du jeudi, donc, pour... voilà. Bonjour Philippe Bourdel.
Bonjour Dimitri.
À 8h57, je vous passe le relais pour Culture Média. Tiens, annoncez-nous la couleur. Quel est le programme?
Vous connaissez le Gorafi?
Oui.
Le site parodique?
Oui.
Il paraît qu'il a été vendu à des Russes. C'est vrai et c'est faux. Il était vendu, mais pas à des Russes, à des Français. On sera avec son fondateur et
c'est
le patron de DC Company, en quelque sorte, qui sont ici, vont expliquer le modèle économique. Et je leur demander comment on peut gagner de l'argent avec un site gratuit. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui ont des comptes et des sites parodiques, et parfois même certains qui veulent les faire interdire. On va aussi parler d'un documentaire d'Arte qui cartonne, Instagram, la foire aux vanités. Il est déjà passé, il est aussi en replay. Déjà 2 millions de vues en replay pour dire la qualité du doc. C'est assez ahurissant ce qu'on y voit. On sera avec son réalisateur Olivier Lemaire. Et puis Alexandre Jardin, il sort un nouveau livre. C'est pas un roman, c'est un livre dans lequel il raconte sa vie, il raconte ses maîtres. C'est complètement dingo. Et ce qu'il dit sur lui, soyez là à 10h, j'avais jamais lu ça de toute ma vie.
Ah oui, c'est un sacré personnage, Alexandre.
Ah non, mais
Alexandre
là, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Je veux pas le dire parce que je veux pas spoiler.
C'est un
soyez là à 10h.
C'est un 10h, c'est un feuzeux aussi. Merci, mon cher Philippe. Tiens, un petit rendez-vous aussi sur Europe 1. C'est La France Bouge aujourd'hui, 13h-14h, en direct du musée des impressionnismes à Giverny pour la 4e édition du salon dédié à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, 13h-14h. 18h59, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin, 7h. Bye bye.
Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1.